les scientifiques entendent, il faut qu'ils se posent des questions. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce qu'on peut s'amuser avec d'autres métaux? Est-ce qu'effectivement ça sillonise dans l'espace? Est-ce qu'on peut garder ça autour d'un satellite? C'est-à-dire, pour pas que le nuage parte dans l'espace, dans le confin intersidéral, il faut que le nuage soit autour. Donc tout ça, il faut creuser l'imagination et il faut essayer de voir si c'est faisable. Et ensuite, donc ces modules bombes sont arrivés autour de Jupiter. Donc, bon, je ne sais pas combien de temps ça a pris, je ne me rappelle plus. Et puis ces bombes sont tombées sur Jupiter et c'était pour tester la puissance de ces bombes, parce que c'était trop puissant sur Terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez des impacts sur Jupiter, mais c'était de l'ordre de 12 000 km ou 20 000 km de diamètre. Donc la Terre, elle fait seulement 12 000 km de diamètre, c'est impossible à tester sur Terre, quoi. Pourtant, ce sont des petits objets de 30 tonnes, mais qui rentrent dans le volume d'une navette spatiale.
Ah oui, tu dis également sur ce site, Christophe Gulicci, que c'était un moyen de contourner l'interdiction de militariser l'espace.
C'est-à-dire un moyen de contourner... bien sûr, de toute façon, je crois qu'il y a des traités sur l'interdiction d'essais d'armes nucléaires dans l'espace, mais bon, il y a des traités qui ont été signés, donc en faisant comme ça, ni vu ni connu, quoi. Et en plus, c'était joli à voir.
Tu signales également que le satellite observateur Galileo était tourné fort opportunément dans cette région au moment de l'impact.
Il y a des trucs qui sont troublants, c'est que quand même, la lettre le dit et c'est vrai, c'est que les capteurs, tout le monde a été averti de cette comète qui allait s'écraser, donc tout le monde sur Terre en a profité pour mettre ses pointeurs. Tout type de détecteurs, mais aussi bien à l'infrarouge que dans d'autres domaines. Tout le monde a profité pour pointer Jupiter. Manque de peau, ça s'est tombé, si vous voulez, juste derrière, sur la face visible de Jupiter, mais un petit peu derrière. Donc, pas sur la face visible, mais derrière, on appelle ça dans le limbe de Jupiter, quoi. Donc, c'est tombé derrière, ça fait que l'impact lui-même n'avait pas été vu de la Terre, sauf du satellite, de la sonde interplanétaire Galileo.
Laquelle est tombée en panne à ce moment-là?
Officiellement, oui, elle est tombée en panne. Disons que les détecteurs de Galileo ont été saturés. Et sur Terre aussi, il y avait la puissance de l'explosion était plus que ce que avaient pensé certains astronomes, quoi. Et bon, alors, on peut... qu'est-ce qui s'est passé pour Galileo? La rumeur, moi je vous dire ce que pense officiellement. La rumeur, c'est que Galileo a été envoyé exprès pour ça, pour faire des mesures les plus justes possibles. Maintenant, Galileo, il a un double... je vous parle de la rumeur, je vous parle pas de ce qui est officiellement. Et Galileo a un double contrôle, c'est-à-dire qu'on peut faire des pannes quand on veut, et on peut intercepter les données, et puis on peut faire des mesures quand on veut. Peut-être qu'il aurait suffi de mettre un satellite non connu, et puis c'est terminé, quoi. Mais bon, Galileo a eu souvent des pannes, pas seulement le jour de l'impact. Je dis une panne le jour de l'impact, mais il me semble que c'était une saturation. Par contre, Galileo a eu des pannes en passant sur d'autres satellites. Galileo a eu souvent des pannes, mais bon, Jupiter a un champ magnétique très puissant. On dit aussi officiellement que le champ magnétique Jupiter étant puissant, Galileo était peut-être mal protégé, et temps, il pétait les plombs et puis ça tombait en panne, quoi. C'est pour ça qu'il faut relativiser, il ne faut pas dire la comète SL9 était une bombe. Il faut avoir plus de preuves pour ça. Mais il faut quand même fouiller un peu de partout toutes les questions. Il faut relever tous les éléments qui penchent pour l'une ou l'autre des thèses, quoi. Et après, on fera le tri et puis après, on essaiera d'en déduire quelque chose.
José te pose une question via le chatroom. Mais sans doute, tu peux l'avoir sous les yeux puisque tu es également dans le chatroom pendant qu'on parle.
Qui est devant, voilà, là je le vois.
Oui, José nous dit, à propos des nuages de barium, a-t-on mis en évidence ces éléments dans les spectres de la comète?
Alors, dans le spectre de la comète, il me semble qu'on a mis en évidence de l'aluminium. Si vous voulez, la comète, elle s'est fragmentée. Donc, pour répondre à José, elle s'est coupée, en 24 morceaux. Donc, dans la lettre SL9 anonyme, elle serait arrivée en 24 modules bombes. Et en fait, c'est les 24 morceaux, si vous voulez. Les 24 modules bombes étaient groupés, et puis ils ont été dégroupés pour qu'en fait, ils puissent mesurer les explosions les unes après les autres. Et comme il fallait simuler une comète pour pas qu'on pense à autre chose, il fallait respecter la fragmentation d'une comète. Donc, ces nuages de comètes, en fait... dans une comète, il y a eu de l'aluminium. Dans l'autre morceau de la comète, il n'y avait pas d'aluminium. Dans un autre morceau qui était considéré comme gros parce qu'il était très lumineux, ben, il a fait une petite explosion. Dans un autre morceau, il a fait une grosse explosion. Si vous voulez, c'est une comète, soi-disant. Enfin, est-ce que c'est homogène une comète ? Je ne sais pas. Il y a des comètes peut-être plus ou moins homogènes. Mais les 24 morceaux d'une comète commune ont eu des comportements différents à l'impact, qui n'est pas lié nécessairement à la luminosité ou donc à la taille. Et c'était un peu bizarre comme comète, quoi. Bon, mais les astronomes, officiellement, ils se sont pas... c'est pourquoi pas, c'est la première fois que, de toute façon, qu'on voit une comète s'écraser sur Jupiter et puis ailleurs. Donc pourquoi pas, je veux dire, peut-être que c'est pas aussi mystérieux que ça, quoi. Maintenant, le barium, je sais pas si on en a... Il y a le lithium, peut-être, je ne me rappelle plus. Mais il faut fouiller, je vais regarder sur mon site. Là. Parce que moi, ça fait un moment que je l'ai plus. Je mets des trucs, mais bon, je passe à autre chose. Je vais regarder ça, je vais vous dire.
Et Tetris ajoute sur le chatroom les messages précurseurs à la rumeur. Elle est en voie de diffusion, mais il y a eu rétention de l'information afin de protéger la vie des informateurs.
Les précurseurs à la rumeur.
Ben, c'est là sous les yeux, là, c'est dans le chatroom.
Mmh, je suis en train de lire. Oui.
Il y a eu... Il y a eu rétention de l'information pour protéger les informateurs.
Oui, peut-être, mais... Bien sûr, mais enfin, sur cette comète, si les astronomes qui écoutent cette radio entendent, moi je leur dis, reprenez tout à zéro et puis faites-nous un dossier complet. Il faut qu'ils se reposent des questions sur cette comète. Maintenant, en connaissant SL9, peut-être, ça donnera peut-être des informations autres. Mais moi j'aimerais bien que sur SL9, on reprenne tout à zéro, quoi.
Alors, bon, pour résumer, l'idée serait que la comète dite Schumacher-Levy n'était pas une comète, mais une fausse comète, une expérimentation militaire américaine de haut niveau avec le moyen d'expérimenter une bombe surpuissante expédiée sur Jupiter parce que ce n'était pas expérimentable sur Terre.
Et un croiseur de luxe.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Oui.
Alors, une autre affaire assez proche, Christophe Iudici, c'est celle du projet SETI, qui aurait été freiné dans son expansion. On rappelle que SETI, ça consiste à partir de Porto Rico, l'observatoire d'Arecibo. Beaucoup ont vu le film Contact, inspiré par Carl Sagan, recevoir des informations radio de l'espace pour essayer d'y trouver des phénomènes récurrents, des signaux pouvant dénoter une intelligence. Et là, sur ton site ataraxie.free.fr, tu laisses entendre que on a été contraint à renoncer au premier projet SETI parce qu'il révélait la présence d'un satellite militaire espion à un tiers de la distance Terre-Lune, autrement dit 100 000 km.
Oui, parce qu'à un moment sur le web avait couru enfin une information qui était parue, c'était comme quoi un signal avait été détecté et que peut-être alors certaines personnes en fait il faut dire le projet SETI, mais il y avait le projet Mega SETI. En fait, à un moment, je crois qu'au niveau gouvernemental, science américaine, il avait été décidé de faire je sais pas si vous vous rappelez. Le projet Mega SETI, c'était un projet à gros budget où on mettait des sur écoute vraiment presque tout le ciel avec des scans de toutes les fréquences. Enfin, un projet ambitieux et puis coûteux. Et puis après, il n'y a plus rien eu. On l'a abandonné. Et en fait, il y a eu la SETI League, donc c'est des radio amateurs du monde entier qui se sont unis pour chacun avec ses moyens et en mettant en commun toutes les données, quoi. Pour essayer de faire, de prendre la suite du Mega SETI. Et puis à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu le lien, c'est qu'à un moment, il y a eu le signal qu'on appelle EQ Pegasi, un signal qui a été capté. Donc, sur Internet, on avait suggéré que c'était peut-être un objet qui avait été capté très près et finalement pas dans le fin fond de l'espace. Et en fait, c'était au-delà des satellites actuellement qu'on a en orbite autour de la Terre, mais bien avant Mars, quoi, si vous voulez. C'était un signal bizarre qui était un endroit qui n'était vraiment pas prévu, quoi. Et ce qu'il en est, c'est que moi, c'est vrai que j'ai mis ce truc-là. Est-ce que c'était peut-être un satellite secret? Parce que s'il y a des choses qui volent en secret dans l'espace, il doit y en avoir pas mal. Et peut-être que le méga SETI a été justement freiné pour pas qu'on trouve des signaux qu'on n'aimerait pas trouver. Quoi. Que, peut-être qu'il y a des secrets militaires, des satellites qui tournent, il y a plein d'autres choses que nous, on n'est pas censé connaître et qu'officiellement, on ne veut pas découvrir. Quoi. Donc, c'est vrai que le projet méga SETI a été tué dans l'œuf. Et en fait, ceux qui ont trouvé le signal, c'était pas du projet méga SETI, c'était des radioamateurs. Des radioastronomes amateurs. Et bon, actuellement, on n'en a plus entendu parler. Bon, c'est oublié, quoi. Mais bon, je me rappelle bien quand c'est arrivé. Donc, je l'ai signalé. Je me dis, tiens, pourquoi pas un satellite militaire secret ou un truc comme ça, quoi.
Oui, parce que 100 000 km de distance, c'est bien
c'est
trop...
100 000 milles, je crois qu'ils avaient, dit.
Donc, 100 000 milles, effectivement, c'est ce que je vois sur le site.
Non, c'est au-delà de la Lune, il me semble.
C'est bien trop loin pour prendre des vues terrestres. Ça n'a pas d'intérêt.
Oui, non, mais peut-être c'était... peut-être c'était un engin pour une mission secrète dont le signal de communication a été intercepté inopinément par un radioamateur à ce moment-là. Donc, était-ce un module bombe, un autre qui allait ailleurs, je ne sais pas. Mais bon, on peut imaginer plein de choses à partir de là. Mais on peut se dire que finalement, qu'est-ce qui empêcherait un organisme militaire russe, américain, chinois d'envoyer un objet dans l'espace sans que les gens le sachent, quoi. Moi, je voyais, c'est vrai que, à part le méga SETI ou des radioamateurs qui tombent pile poil sur le signal, même s'il est crypté tout ça, mais ils vont le capter, quoi. Et après, on se pose des questions, mais qui a émis le signal de cet endroit-là qui est censé être vide? Donc, c'était la question.
Et ben là, actuellement.
En fait, c'est une question, si vous voulez, mais c'était pas une preuve, c'est pas une.
On développe sur le thème qu'il y a des tas de choses, des quantités de choses que le public n'est pas censé savoir, donc, qu'un secret, la politique du secret, qui concerne tous les pays, finalement, ne cesse de s'appliquer. Christophe Leleu a une parenthèse à ouvrir sur le thème du secret.
Oui, c'est la fin du rapport Cometa, qui est l'article 733. Finalement, pourquoi le secret? Nous ignorons actuellement l'ampleur des connaissances que les militaires américains ont tirées de l'ensemble des études qu'ils ont menées sur le sujet, soit à partir d'observations, soit, comme cela a été parfois écrit, à partir de matériel qui aurait pu être récupéré. Quoi qu'il en soit, il est clair que le Pentagone a eu, et a probablement toujours, le plus grand intérêt à cacher, du mieux possible, toutes ces recherches qui peuvent à terme amener les États-Unis à tenir une position de large suprématie vis-à-vis d'adversaires terrestres, tout en les dotant d'une capacité de riposte non négligeable contre une éventuelle menace venant de l'espace. Dans ce cadre, il leur est impossible de divulguer les ressources de ces recherches et les buts poursuivis, car cela pourrait orienter immédiatement les concurrents éventuels vers les pistes les plus intéressantes. Le camouflage et la désinformation, tant active que passive, resteraient toujours dans cette hypothèse une nécessité absolue. Ainsi, il paraît très naturel que dans l'esprit des chefs militaires américains, le secret doit être gardé le plus longtemps possible. Seule une pression croissante de l'opinion publique, éventuellement soutenue par des résultats de chercheurs indépendants, des divulgations plus ou moins calculées ou encore un accroissement brutal des manifestations d'OVNI pourraient peut-être amener les dirigeants et les responsables américains à modifier leur attitude. Il ne semble pas que l'on soit déjà là. Ça, c'est la conclusion du rapport Cometa.
Oui, donc, c'est évident que les secrets peuvent être gardés, quoi. Donc, on peut citer aussi un exemple, je ne sais pas si vous connaissez le petit dernier de chez Boeing, un petit avion furtif, on peut le trouver dans la revue Aviation Design, hein, ce que j'ai sous les yeux. Cet avion, il a été conçu en 92, il a volé en 96, certains ingénieurs ont commencé chez Boeing à le connaître en 99, et puis on l'a dévoilé en octobre dernier, semi-officiellement. Donc ça veut dire que personne ne savait que... En fait, apparemment, c'est sur la base 51, donc une base aérienne retirée dans le désert américain. Personne ne savait que cet avion existait, donc jusqu'à ce jour, personne n'en a parlé. Quoi. Il n'y a aucune rumeur dessus. Donc s'ils veulent garder un secret, ils peuvent le faire sans problème.
Et Tetris nous dit sur le chatroom, www.forumrim.com/chat, Tetris nous dit « La rumeur est un moyen détourné afin de contourner une désinformation scientifique. et une persécution de grande ampleur. La science militaire est surveillée de telle manière que les chercheurs n'ont plus aucune liberté. Dénoncer l'état des choses revient à se condamner à mort. Et il ajoute, la politique du secret est un piège considérable qui sert à la manipulation.
C'est vrai.
Il ajoute aussi, une rumeur est une information qui peut être vraie ou fausse, ou les deux, ou indécidable.
C'est pour ça que... Et oui, tout à fait. Non, on peut pas aller très loin, nous, en tant que simple citoyen. Il faut avoir des moyens autres, bien sûr. On peut relever des détails qui sont incongrus ou des trucs bizarres, mais... Et puis après, on a des doutes, on imagine, mais... C'est dur d'aller plus loin, quoi.
Il y a un truc que je peux raconter.
Oui, Christophe Lelay.
Que je suis allé aux États-Unis, en Arizona, et à Sierra Vista, il y a une base qui est complètement souterraine, mais qui est à même dans une montagne. C'est-à-dire que c'est des tunnels qui sont, les tunnels dans lesquels on rentre, et la base est dans la montagne, en fait. Et on s'est perdu en faisant une balade complètement par hasard. Incidemment, on s'est perdu là-dedans. Et il y avait les baraquements de les casernements, mais on voit à quel point toute l'énergie, en fait, ça dégageait une impression de puissance et de secret, parce que les panneaux énormes qui signalaient attention, vous entrez dans une zone interdite, etc. Nous, on était perdus, on ne pouvait pas faire demi-tour de toute façon, et c'était assez ébouriffant, quoi. Voir une base comme ça qui est... Et cette base-là, c'est une des bases dans lesquelles le F-117 était expérimenté.
C'était dans le Nevada ?
Non, en Arizona.
Arizona ?
Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas, à ce moment-là ? En balade, tu faisais du camping ?
J'étais en promenade. J'étais complètement touriste. Complètement. Mais vraiment, on est tombé en plein dans le territoire d'une base secrète, la base de Sierra Vista. Et elle existe. Elle
qui maintenant ne l'est plus.
Non.
Puisque Lelay l'a vu. Radio ici maintenant, 01 45 75 44 44 pour partager vos secrets ou vos impressions concernant le secret. Puisque l'exemple que nous a donné Christophe Guidici tout à l'heure du Boeing, ce modeste exemple d'engin qui volait depuis 7 ans lorsqu'on a appris qu'il était réalisé, démontre amplement que ce n'est qu'un tout petit exemple, qu'évidemment les moyens militaires immenses sont donnés à des équipes qui développent des tas de choses sans nécessairement avoir envie de nous en parler. Et ça peut durer très très longtemps. 01 45 75 44 44.
Sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, dans une émission proposée et animée par Didier Deplège, Alexandre là au micro, ce n'est pas le même. Nous avons Christophe Iudici qui est toujours avec nous. Toujours là, Christophe?
Oui, toujours.
Ok, nous avons Patrick qui veut te poser une question. Alors attention, je vais faire ce que je peux pour que ça ne l'enchaîne pas, ça ne va pas être évident. Mais je vais me battre pour Patrick, bonsoir.
Tu me répéteras.
Bonsoir tout le monde. J'avais pas tellement une question à poser, c'était surtout pour rebondir vis-à-vis des moteurs. Parce que c'est... Vous m'entendez bien ?
Oui,
ouais, très bien, ouais.
Ça va, là. Parce que c'est un peu mon domaine. Et j'ai un ami qui a travaillé il y a à peu près 6 ans dans une entreprise de la région PACA qui constituait des moteurs à air comprimé et qui devait les vendre pour le Mexique et pour faire les taxis de Mexico. Sauf que cette société, elle a fait faillite.
Ah bon, parce que oui, je connaissais la société, Thierry Nègre qui s'appelait le directeur.
Oui.
Et elle a fait faillite?
D'après ce que je sais, oui, elle a fait faillite. D'après le collègue qui a travaillé là-bas. Et le fait est que donc ça fait 6 ans, je me rappelle de reportages qu'il y avait eu donc à la télé vis-à-vis de ça. Donc, et la plupart des gens ont totalement oublié ce principe de moteur et même que ça existait. Et même le fait est, ce que je voulais dire, c'est que même si on arrive à la production industrielle, et qu'on arrive donc à sortir et à vendre des véhicules comme ça, c'est pas pour autant qu'on va changer de mode de fonctionnement et de mode d'énergie pour les véhicules. C'est pas parce que dans 10 ans il y aura des véhicules à hydrogène que forcément dans 10 ans on passera à l'hydrogène.
Bah pourtant, alors quel est le consommateur qui a choisi entre un moteur non polluant et un moteur propre, disons, et puis être client du lobby pétrolier, qui hésiterait une seconde?
Oui, mais pour moi c'est pas le client qui décide.
Mmh.
Voilà.
Oui.
vis-à-vis de ce rapport énergétique, c'est pas du tout le client qui décide. Et même s'il peut crier de toute la voix qu'il veut, il n'y arrivera pas. Il y a des lobbies trop importants derrière pour faire bouger les choses.
En tout cas,
c'était donc juste pour vous dire que peut-être dans 10 ans, on aura des voitures industrialisables avec des moteurs à eau, même si ça fait depuis les années 70 que ça existe, c'est pas pour ça qu'on aura des voitures à eau, nous, monsieur tout le monde.
En tout cas, on a la preuve qu'ils existent maintenant.
Ah oui, mais on a la preuve depuis longtemps.
Preuve, disons, médiatiquement, largement distribuée. Pour l'instant, c'était un petit peu objet de moquerie, si on peut dire.
Oui, c'est vrai que c'était le moteur à eau, ça a été objet de moquerie, mais les moteurs hybrides, que, par exemple, une autre constructeur allemand, c'est Mercedes, qui a développé ça il y a 4 ans, avec, Mercedes, hybride et essence, ils avaient fait un prototype. Ils voulaient le commercialiser au bout de 5 ans à peu près. On n'a plus du tout de nouvelles. Moi, de mon côté, je vois qu'il y a beaucoup de véhicules électriques qui se font un peu à droite et à gauche. Tous les projets sont arrêtés. Tous les constructeurs français arrêtent leurs projets de voitures électriques. Plus ou moins. Par exemple, PSA a totalement arrêté. Pour une Peut-être une simple bonne raison, c'est que ça délocalise la pollution, en fait, c'est tout. Mmh. Mais en définitive, on reste toujours sur le principe pétrolier et les autres principes de moteur qui n'utilisent pas des énergies fossiles sont mis dans les oubliettes le plus vite possible. Et ça, ça change pas. Et moi, j'en ai eu la preuve dans ces cinq dernières années. Donc, c'est lamentable.
Alors, la personne dont tu nous parles, qui devait équiper les taxis de Mexico City,
oui.
Avait été conduit à la faillite ou il était mauvais gestionnaire?
Problème de brevet, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que le problème, c'est que si on pose son brevet en Europe et qu'on commercialise au Mexique, il faut breveter aussi au Mexique. Et je crois que, d'après ce que j'ai compris, il a été bloqué à ce niveau-là. Mm-hmm. On a empêché justement qu'il commercialise là-bas, parce qu'il n'avait pas de marché en France. On lui avait totalement bloqué le marché en France. C'est-à-dire les lobbies automobiles...
Pétroliers.
Ça va ensemble. Donc ces lobbies-là ont tout fait pour empêcher des commercialisations de véhicules en France. Puisque je me rappelle que, en plus, ce qui est surprenant, c'est que c'était des moteurs qui étaient très petits, extrêmement compacts, et qui développaient une puissance... ils avaient un rendement génial. C'est pour vous dire, la taille du moteur, c'était le volume d'une roue d'Austin Mini. Donc c'est très petit. Et on pouvait rouler à 110 km/h avec des bonbonnes d'air comprimé qu'on prend dans les stations essence.
Oui, avec quelle autonomie?
Avec une autonomie, là, non, je n'ai pas du tout les chiffres en tête.
Je suis en train de voir sur Internet,
oui,
c'est 200 km à peu près. Mais bon, ça coûterait 1,5 euros.
Voilà. Mais dites-moi, elle est vraiment bien fermée, la usine, dans le sud de la France? Parce que pour moi, elle est totalement fermée.
Alors, la région partira. Quelle est la réponse?
Par rapport à monsieur... qui est de l'autre...
Monsieur Nègre. Totalement fermée, l'usine?
Parce que j'ai pas donné à tout moi, ici.
Ah, il n'a pas accès au net.
Ah non, ici, chez moi.
Bon, affaire à suivre.
Affaire à suivre, voilà. Quoi. C'était pour vous informer... peut-être un plus vis-à-vis de ça.
Oui, il est peut-être temps de se quitter. Ta voix disparaît étrangement. C'est vrai que c'est pas tout à fait facile de faire dialoguer en ce moment des personnes par téléphone. Mais je crois qu'on s'est bien compris.
Oui, j'ai entendu, mais par moments, là, je vous entends mal.
Non.
C'est faible.
C'est pas grave. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.
Merci, Patrick.
Au revoir.
Au revoir. Et pendant ce temps, Tetris nous dit sur le chatroom, donc Forum Rim, en un seul mot, forumrim.com/chat, C-H-A-T. Tetris nous dit, l'intérêt dans la recherche de la vérité est de lutter contre le piège totalitaire de la désinformation militaire, car elle sert à réguler toute la vie scientifique. Il existe ainsi des sujets tabous difficiles à faire émerger. Il est donc vital de conserver un état minimal de vigilance, même si cela ne sert qu'à dénoncer certains périls. Et il ajoute, l'utilisation abusive des brevets est une création des services secrets afin d'organiser la régulation et le vol de technologies. Les exemples de pillage sous le couvert de sociétés écrans travaillant pour les services secrets sont édifiants.
Je suis totalement d'accord avec cet avis. Oui. Parce que, comment dire, un brevet, soi-disant pour protéger un inventeur, en fait, il est en train de dire à tout le monde ce qu'il est en train de faire. Quoi.
Mmh.
Donc après, ben, si l'organisme qui contrôle le brevet est un peu défaillant, ben, c'est la porte ouverte à tout.
Mm-mm. Oui, le dépôt de brevet, en fait, c'est au pillage.
C'est celui qui contrôle les dépôts de brevets qui fait ce qu'il veut. Donc bon, officiellement, c'est des organismes indépendants, mais bon, ben, maintenant, on peut se poser des questions là-dessus.
Ah ben, ça ressemble alors à la technique, par exemple, pour une boîte de prod, de dire on offre 1 000 euros de prime au scénario choisi, envoyez vos synopsis. Alors, les braves gens envoient leur synopsis, la boîte de prod à court d'idées se dit, tiens, voilà une idée qui est bonne, et il se font royalement de 1000 euros au premier, mais il a amassé dans son coffre des trésors d'imagination dont il se servira par la suite. Et ça, c'est une forme de pillage attractif.
Oui.
Le 45-75 est libre, 45-75, 44-44. Je rappelle que nous sommes avec Christophe Gulici, l'auteur responsable, chef éditorial, tout ce qu'on voudra, de ataraxie.free.fr et de Christophe Leleu, leleu.free.fr, ça s'écrit miragexpress.free.fr. Leleu, c'est autre chose, c'est son email, ça, c'est chez nous. Oui, on peut le dire.
Oui, oui.
Trop tard, c'est dit.
C'est Leleu.
Leleu, chez nous.fr. Son site, donc, miragexpress.free.fr. Le lien sur ce site pour rejoindre l'association Don Quichotte, laquelle veut et doit faire tomber le mur du silence.
C'est le but. C'est vraiment le but.
Et le lien également pour télécharger bon nombre d'émissions réalisées et produites sur Ici et Maintenant. Le standard, je ne l'annonce plus, il est occupé.
Il est occupé, nous avons Frédéric en attente, alors dû à quelques petits réglages de régie, on va laisser Frédéric poser sa question, nous raccrocherons après, et comme ça, après, nous pourrons lui répondre tranquillement. Frédéric, bonsoir.
Oui, bonsoir, Frédéric de Nanterre. En fait, voilà, j'appelle pour confirmer, en fait, les dires de l'auditeur précédent concernant les moteurs à air comprimé, en fait.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire que j'en ai entendu parler il y a quelques années. Et il s'agissait effectivement d'un ingénieur en fait en Formule 1 qui avait délaissé un peu la Formule 1 en fait pour pouvoir se consacrer à cette technologie. Et la France en fait au début il était soutenu par des industriels et effectivement il a été bloqué par la suite assez rapidement parce que le problème c'est qu'il avait une excellente autonomie au niveau du moteur qui effectivement roulait à environ 110 km/h, mais il avait une excellente autonomie de l'ordre de 400, à peu près 400-500 km en fait. Et très très rapidement, il a été bloqué en fait. Et je voulais juste confirmer en fait les dires de
Patrick.
Voilà, tout à fait. Voilà, c'était juste pour ça.
On va passer sur le thème, on nous cache tout. Non, c'est vrai, c'est ça qui ressort. En fait, on fait plonger des constructeurs, des inventeurs intéressants, parce que face à ces lobbies dont on a parlé, en particulier le pétrole, ben, ils ne pèsent pas lourd.
Voilà. Voilà, c'est effectivement ça. Et le problème, comme le disait encore cet auditeur, c'est que on a les technologies, elles sont là.
Oui.
Elles sont à notre disposition. Les technologies sont là depuis bien longtemps. Le problème, c'est qu'il y a quelques personnes qui contrôlent le pétrole et qui contrôle donc en fait toute cette industrie, ils veulent pas la lâcher. Et il s'agit pas pour les gens de rouler propre ou quoi que ce soit d'autre, il s'agit tout simplement pour eux de faire plus de profit. On a l'impression que ça n'enchaîne plus quoi. Donc voilà. C'était tout ce que je voulais dire.
Oui, j'ajoute en particulier que semble-t-il en Europe, on est davantage conscient qu'une guerre contre l'Irak sert à s'approprier le pétrole. Alors que, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés à force de désinformation, mais les Américains en sont beaucoup moins conscients.
Mais
on arrive à leur vendre plutôt la paix à travers la guerre que mettre en évidence le pétrole.
Je regardais une émission justement concernant cette guerre qui se prépare ou qui ne se prépare pas.
Excuse-moi, c'est toi qui as ta télé allumée derrière ?
Ah oui, c'est possible.
Si tu pouvais l'éteindre, c'est insupportable. Merci.
Désolé.
Un coup de télécommande et...
Et comment dirais-je ? Et en fait, ce type expliquait tout simplement qu'en fait, les États-Unis avaient apparemment 15 ans de retard au niveau technologie, au niveau des moteurs, moteurs des voitures. Le retard n'était pas tant dans la technologie pure du moteur, mais en fait dans la façon de consommer le moteur, c'est-à-dire au niveau des cylindrées. En fait, il y a beaucoup de 8 cylindres aux États-Unis, beaucoup de gros moteurs, en fait, qui consomment pas mal de carburant, en fait. Et il expliquait qu'en fait, il admirait pas mal les Européens au niveau des technologies qu'ils avaient développées au niveau de leurs moteurs, notamment les 4 cylindres et les consorts, quoi, qui consommaient beaucoup moins, qui étaient très puissants et qui avaient une bonne autonomie, en fait, une excellente autonomie, quoi. Et qu'il comprenait pas pourquoi les Américains continuaient toujours à avoir la même politique énergétique, en fait, au niveau de la consommation, au niveau des véhicules, en fait, quoi. Il ne comprenait pas trop, quoi, puisque, bon, il est vrai que, enfin, soit dit en passant, je ne vois pas à quoi sert des V8, des V10, des V12 sur une autoroute, quoi, très honnêtement. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Je ne vois pas trop l'intérêt, d'autant plus que, ne serait-ce qu'avec des V6, on obtient déjà une puissance assez conséquente, quoi. Donc, ce type expliquait qu'il ne comprenait pas trop la mentalité énergétique, en fait, américaine. C'était un Américain lui-même, hein, très très bien placé, et pour ça, en fait, il admirait les Européens, quoi. Voilà. Voilà, j'ai pas les noms, donc je peux pas vous les donner, quoi. Voilà.
Merci Frédéric.
Eh bien, écoutez, bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Merci. Donc le 01 45 75 44 44, se libère. 01 45 75 44, deux fois. C'est pas très évident le téléphone, on s'en excuse. Surtout les téléphones longue distance et puis la mise en relation via deux téléphones. On va devoir rénover nos inserts téléphoniques parce qu'on progresse dans le développement logiciel, les chatrooms, les forums, tout ça, la webcam. Mais tout bêtement, c'est le hard qui pêche un peu. Surtout en téléphonie. Alexandre Orantaine nous faisait référence à une émission vue après 100 minutes pour convaincre hier sur la 2.
Voilà, c'est l'émission à laquelle faisait référence l'auditeur précédemment. Si je ne me trompe pas, c'est l'œil sur le monde ou l'œil sur la planète qui revient à peu près au même. Et c'était hier soir, c'était sur les États-Unis, sur George Bush, et ses liens avec la religion, justement, et avec les pétroliers, ce qui a émaillé sa carrière. Le fait qu'à 40 ans, il a arrêté alcool et femmes, ou en tout cas alcool, pour se consacrer à la religion, et quand on lui demande quel est pour lui le philosophe qui l'a le plus marqué, il répond, c'est Jésus. Voilà, donc c'est assez intéressant, c'était une première assez bien faite. Et cette interview dont l'auditeur nous a parlé récemment vient de cette émission.
Je raconte une histoire horrible à propos de Bush. Non. Non. Tu le censures? Oui. Bon.
Oui, mais à propos de Bush, quand même, bon, il est dans les pattes des lobbies ultra religieux qui sont plus que réac. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est même pas dans une logique rationnelle. La croisade contre l'axe du mal. Qu'elle est décrite et qu'on la connaît depuis le 11 septembre, en fait, ne répond à rien, strictement rien, de rationnel. Le fait même d'attaquer l'Irak, en fait, en est une preuve, parce que le rapport qui est là est vide. Il n'y aura jamais une preuve tangible autre que la volonté de George Bush et des lobbies qui sont derrière lui pour attaquer l'Irak, à mon sens.
La guerre du Biafra était déjà pétrolière, il y a plus de 20 ans. L'Afghanistan, il s'agissait bien d'un oléoduc.
D'un oléoduc, oui.
Effectivement.
La guerre pour un pipeline, oui.
En fait, en cas de guerre, chercher la matière première.
Mm-hmm.
Et c'est transparent. Hélas. Nous avons un nouvel intervenant à l'antenne, Alex.
Oui, nous avons Yvon. Nous allons faire le même principe. Hein. Yvon va poser sa question et après nous pourrons répondre. Yvon, bonsoir.
Oui, allô ?
Oui, tu es à l'antenne.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc voilà, j'appelais concernant les énergies renouvelables et donc la possibilité de se passer de pétrole. Évidemment, c'est un domaine qui rentre dans une grande politique interplanétaire, on pourrait dire. Mais voilà, tout à l'heure vous cherchiez l'inventeur, donc il a eu un article dans Science et Vie concernant les moteurs à air comprimés. Allô ?
Oui, oui, écoute, il s'appelait Thierry, c'est de son prénom, c'est ça, non ?
Je sais plus, j'ai pas sorti Science et Vie, j'en ai toute une collection, bon, j'ai pas fait la recherche, mais j'ai vu que vous cherchiez, donc... Voilà, il y a eu donc un article, évidemment, il avait traité un marché avec Mexico, et c'est vrai...
Mais c'est bien le même, alors.
Pardon ?
C'est bien le même dont on parle.
Oui, 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 c'était un chef mécanicien ingénieur d'une écurie de Formule 1.
Mm-hmm.
Et, bon, je vous dis ça par mémoire. D'autre part, bon, évidemment, le pétrole, ça reste une grande polémique humanitaire dans le fait qu'il pollue. Mais il est bien évident que le pétrole, ça nous fournit toute la pétrochimie plastique et autres. Alors, je suis en train de débattre de façon à défendre un peu le côté pétrolier.
Mmh.
Ensuite, lorsqu'on extrait le principal produit du pétrole, la principale matière, c'est-à-dire le plastique, qu'est-ce qui reste? Les résidus, c'est l'essence et le gasoil. Donc, évidemment, on vit dans une société où on a besoin de plastique. On utilise énormément de plastique. Qu'est-ce qu'on ferait si on stockait l'essence sans la brûler?
Eh bien, on la répandrait sur les côtes.
Bah oui, on ne saurait pas quoi en faire.
Mmh.
On aurait des citernes d'essence dans toute la planète.
Au nom du plastique?
Au nom du plastique, entre autres, d'une pétrochimie.
Oui. Ce serait grave?
Ben oui, c'est inquiétant. En fait, c'est inquiétant. C'est un cercle vicieux.
C'est-à-dire qu'avec tout le parc automobile, qu'il y a, effectivement, c'est, comme tu dis, c'est le serpent qui se prend la queue.
Voilà. Donc, et d'autre part, lorsqu'on vide les nappes pétrolières, on récupère des cavités souterraines qui peuvent être exploitées pour stocker, pour stocker ce qu'on veut.
Ou pour faire des essais nucléaires souterrains.
Éventuellement.
Tant qu'on y est, il n'y a pas de raison.
Bon, maintenant, s'il fallait dire une énergie propre et renouvelable, c'est vrai, il y en a plein. Il y en a plein, on les connaît. On les connaît, avec très peu, on peut faire une réaction en chaîne sans passer par le nucléaire, bien sûr. Mais une réaction en chaîne à partir de l'énergie de base, avec très peu de calories, et développer une synergie motrice bien supérieure. Seulement, voilà, on se mord la queue.
Là, tu parles de rendement, alors.
De rendement, et puis aussi de technologies nouvelles, avec la céramique, les rubis synthétiques concernant les roulements, l'exploitation des pressions en vapeur composées, etc.
Tu peux développer, là, sur ces rubis synthétiques et...
Pardon ?
Tu peux développer un petit peu sur ces rubis synthétiques
et... les rubis synthétiques, c'est une bille, c'est un rubis, hein. C'est un rubis qui va être coincé entre deux concavités en rubis synthétique elle-même, ce qui fait qu'il n'y aura aucune usure ni aucun échauffement, puisque le rubis par lui-même ne s'use pas en frottement. Et on peut atteindre des vitesses allant à des milliers et des centaines de milliers de tours sur un roulement, par rapport à un moteur classique à essence qui ne dépasse pas 12 000, 20 000 tours, même 30 000 tours dans les meilleurs des cas, mais... en un temps limité, alors qu'avec le rubis, on peut atteindre des centaines de milliers de tours.
C'est fou.
Et en utilisant donc des chambres de compression en céramique, en utilisant des vapeurs composées, on peut obtenir des pressions sans combustion. On peut obtenir des pressions et récupérer une synergie fantastique. À partir du moment où on alimente l'évaporation des fluides par une lumière propre, on peut obtenir un tas de choses. En fait, bon, je peux pas non plus développer toute une théorie au téléphone.
Mmh. Donc, ce qu'on comprend, en fait, c'est que il y a toute une chaîne qui est prête d'énergie. Qui condamnerait à terme celle qu'on utilise actuellement
et le problème,
et donc tout un système.
Mais voilà, c'est ça, on se mord la queue, on peut pas non plus s'autodétruire.
Oui, on pourrait imaginer des systèmes de transition, peut-être.
Mais ce qui est gênant, c'est que dans les énergies propres et renouvelables et non polluantes, elles sont quasi inusables.
C'est
quasi inusable, c'est-à-dire que à la limite le moteur, on n'aurait aucun intérêt à l'arrêter. Il produirait de l'énergie 24 heures sur 24, ça coûterait rien.
Oui, je comprends bien. Oui.
On en aurait trop. Et donc c'est tout un état d'esprit, un état de pensée, un état de fondation sociétaire qui est remis en cause.
On en aura de trop quand on aura résolu le problème de la famine.
Alors ça. est-ce qu'on n'entretient pas nos pauvres?
C'est une autre question, mais t'as pas tort de la poser. T'as pas tort. On a besoin de chômeurs aussi. On a besoin pour tout un système, exactement comme pour l'automobile avec son énergie. Une société roule avec un système avec de salariat qui fait que pour ne pas hausser les salaires, on préfère avoir des gens en bas.
Oui, ça c'est un autre problème.
C'est une technique.
C'est un problème. Oui, c'est un problème d'exploitation humaine. C'est autre chose encore. Mis à part ça, bon, ce que je voulais dire, je jette pas la pierre au pétrole, puisque le pétrole, on en a eu besoin. On en a eu besoin, et ça a été un peu le fondement de nos développements.
Oui, Yvon, à ce sujet, j'essayais de montrer tout à l'heure. Ce n'est pas qu'on doive incessamment se passer ou soudainement se passer de pétrole, c'est simplement dénoncer le fait qu'on a tenu secret ou ridiculisé des techniques intéressantes. On a fait croire au public que c'était de la pure fantaisie, alors qu'en réalité on les développait dans des usines, un type de prototype secret, confidentiel, pour un jour, du jour au lendemain, les exposer au public, après les avoir dénigrés dans les grands médias.
Mais oui, c'est vrai ce que vous dites, ça c'est bien connu, il y a eu même des films à ce sujet, il y a eu des débats, il y a eu un tas de choses, mais on arrive aujourd'hui à une époque où l'humanité a atteint un niveau de connaissance, je parle de l'humanité en général, je parle pas de forcément des ingénieurs, forcément des gens diplômés. N'importe qui peut analyser l'exploitation des matériaux nouveaux et en tirer des conceptions nouvelles.
Oui.
Et donc, ce qui se faisait il y a 30 ou 40 ans en matière de recherche d'énergie propre est à la portée de tout le monde aujourd'hui.
Mmh.
C'est à la portée de tout le monde. Il suffit de réfléchir et d'étudier les nouveaux matériaux. Actuellement, dans tout ce qu'on nous parle à la télé, dans tout ce qu'on nous parle partout, dans les recherches au niveau moteur, on ne parle que d'anciens matériaux. D'acier, d'aluminium,
oui.
de durite en caoutchouc, de refroidissement avec un radiateur, etc., etc. Mais ça, ça fait déjà partie du passé. Si on sort de cette conception et qu'on réanalyse complètement la possibilité de développement en matière synergétique, on se rend compte qu'il y a d'énormes possibilités avec les nouveaux matériaux. On pourrait donner des ailes aux voitures.
De quoi rentrer dans un nouveau paradigme, en fait?
C'est pas un nouveau paradigme. Le problème, c'est la question économique et humanitaire que ça engendre.
Ben oui, c'est bien donc c'est une nouvelle forme de civilisation, ça suppose, en fait.
On aurait les moyens de la faire. On aurait les moyens de la faire, mais on ne peut pas passer outre les institutions en place.
Mmh. Ouais, c'est la grosse question.
On en est tous conscients là-dessus, hein. On est bien tous conscients. Voilà.
Enfin, encore une fois, ce qui est désolant, c'est qu'une des techniques existent confidentielles pendant 15 ans. On nous fait croire qu'elles ne peuvent pas exister, on les tourne en dérision. Jusqu'au jour où on l'expose publiquement.
Mais c'est dans l'intérêt de tout le monde de parler franchement et de dire on est tous conscients, on n'est pas des barjots, on comprend très bien ce qui se passe, on sait très bien qu'on ne peut pas changer la société du jour au lendemain, il faut faire avec ce qu'on a. Nos grands-pères ont développé des technologies et ces technologies, ils y ont cru, elles sont encore actuelles aujourd'hui, et il faut progressivement les remplacer, mais on ne peut pas du jour au lendemain les remplacer, c'est impossible.
Il y a quand même une différence, c'est qu'à l'époque de nos grands-pères, ces technologies n'étaient pas confiscatoires. C'est-à-dire que moins que maintenant, parce que les enjeux étaient moindres, à mon sens.
Disons qu'on n'avait pas... On n'avait pas la même science, on n'avait pas la même liberté aussi de penser, de parler.
C'est relatif, tout est relatif, effectivement.
Voilà, tout est relatif.
Mais pour boucler sur le début de mission, le sujet OVNI,
Et par rapport à cet exemple donc, du moteur à eau réputé impossible et, que, et dont on apprend tout à coup qu'il
bien
existe
sûr,
et qu'il est
sûr,
développé depuis 15 ans, ce qui est catastrophique, c'est de nous maintenir actuellement dans l'ignorance pour un jour nous dire « Ah ben oui, mais ça on le savait depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, on ne pouvait pas vous en parler à l'époque. » Comme le nuage de Tchernobyl, il faut attendre 16 ans pour connaître la vérité et ben, c'est trop.
C'est d'autres problèmes, ça. C'est d'autres problèmes, c'est-à-dire un besoin énergétique pour fournir un développement de société. Donc, il y a eu des erreurs dans le sens où on a manqué quelque part d'un peu de maîtrise au niveau de ces technologies, mais ça n'a pas été fait exprès.
Puis d'imagination aussi.
Ça n'a pas été fait exprès.
Enfin bon, les forces de conservation qui sont en place sont redoutables parce qu'elles préfèrent le secret, voire l'élimination quelquefois physique
de
quelques gêneurs plutôt que la vérité.
C'est une question politique, c'est une question de gestion des masses humaines. On ne peut pas révolutionner du jour au lendemain tout un système. On ne peut pas aller trop vite, c'est impossible. C'est impossible, ça remet trop de choses économiques en cause, et c'est-à-dire que bon, le bilan ça voudrait plus rien dire, les amortissements ne voudraient plus rien dire. Et ainsi de suite, du jour au lendemain, vous achetez du matériel, vous devez l'amortir sur 5 ou 7 ans, ou 10 ans, selon le type de matériel, et on vous dit, manque de peau, ton matériel ne vaut plus rien, puisqu'il y en a un nouveau qui fait 10 fois plus vite et 10 fois mieux. Donc voilà, on dit, on a investi des sommes énormes dans une technologie, dans une structure de sociétaire, et donc il faut l'amortir, cette structure. On ne peut pas passer outre.
Sur le chatroom, je vois qu'il y a Net Radio qui dit tous les systèmes sont condamnés à terme, entre guillemets, terme, et pourtant, seule la barbarie règne en maître. En fait, ce que je disais tout à l'heure, ça suppose un nouveau paradigme, en fait, de civilisation, que de mettre en application ces technologies dont on parle actuellement. C'est réellement une révolution totale.
Ah oui, c'est une révolution totale, tout à fait. Tout à fait. On pourrait avoir à sa ceinture une source d'énergie permanente. Une source d'énergie permanente. Et la voiture qu'on posséderait, le moteur ne s'arrêterait jamais et on n'entendrait même pas tourner.
Ça ne permettrait pas du même coup d'arroser le jardin.
On pourrait avoir une source d'énergie similaire à tout type d'application, aussi bien pour purifier l'eau, l'air, ce qu'on veut.
C'est-à-dire qu'on a cette technologie, elle existe.
Elle n'existe pas. Elle est concevable. Elle est tout à fait concevable avec les nouveaux matériaux et la science nouvelle.
Mais il y a trop d'intérêt en jeu pour qu'elle soit développée, c'est ça ?
Mais bien sûr, puisque nous sommes une société, nous avons investi dans des capitaux gigantesques dans toute une structure en place. On ne peut pas, du jour au lendemain, démonter cette structure, dire « elle ne vaut plus rien ». Même si on investit 1000 milliards d'euros, on ne peut pas dire on va mettre 1000 milliards d'euros à la poubelle parce qu'on a trouvé autre chose.
Oui, mais c'est révoltant. C'est ce qu'on peut penser, passer 30 ans.
C'est révoltant, mais
ça
fait partie de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça a toujours été comme ça. Et sinon, on abolit la monnaie, on abolit tout. On abolit... alors, il n'y aura plus que... la seule valeur, ça sera le génie humain. Point.
Intelligence.
L'intelligence. Mmh. Tiens, t'as une idée, paf, ah bah t'as gagné un appartement. Voilà.
Oui,
alors,
mais la bonté
et
la compassion aussi, parce que c'est la famine qui est en cause. Il meurt des dizaines de milliers de personnes qui meurent de faim tous les jours, et cet immobilisme sacrifie combien de dizaines de milliers de contemporains à chaque heure qui passe.
C'est clair.
Ben donc, il faut que ça change.
Oui, que ça change, mais s'il faut faire un bain de sang, une révolution, moi, je dis que c'est ridicule.
Parce que t'as passé 30 ans, toi, t'as plus l'âge.
On arrive à un niveau, on arrive à un niveau de dialogue aujourd'hui qu'on n'a jamais eu avant. On a la possibilité de discuter entre nous, que ce soit avec des grands ou avec des petits, on peut tous parler ensemble, et ça, c'est déjà formidable, c'est une évolution capitale. Et à partir de là, s'il faut dire on va refaire les guerres qu'on a fait il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a 500 ans, non, c'est pas la solution.
Tu sais, en 1980, le public se posait pas de questions. L'information, c'était post-perfite. L'information, elle était comme elle était, dans des tuyaux bien établis, jusqu'au jour où des rebelles se sont dit, mais il faut que ça cesse. Et ont ouvert des radios libres, on en est là. Il y a eu une prise de parole.
J'ai un ami qui était dans les fondateurs des radios libres et qui sont aujourd'hui très bien placés au niveau média. Donc je serais bien placé aussi pour vous en parler.
Oui, mais il a fallu que ça bouge. On ne pouvait pas se contenter de la situation de l'époque.
Tout à fait, tout à fait. Il est bien évident qu'en levant les débats, on fait avancer les choses. Mais la meilleure façon de faire avancer les choses, ça serait de se mobiliser. Pourquoi on ne ferait pas une caisse style de la sécurité sociale obligatoire pour l'évolution planétaire. Point barre.
C'est une très bonne idée, ça.
Point barre.
C'est une excellente idée.
Alimenté par une taxe Tobin.
Oui.
Tout homme qui travaille aura un pourcentage de 0,5% à mettre sur la caisse d'évolution planétaire. Point barre. Qu'il soit chinois, ça sera en rapport avec ses fonctions.
Au service des familles.
Avec ses revenus, qu'il soit français, qu'il soit américain, qu'il soit russe, qu'il soit allemand, qu'il soit africain, n'importe.
Oui, même mais on en était là à lever des secrets technologiques qui permettent l'avancement. C'est le thème de départ. Et il y a des personnes de pouvoir qui maintiennent le secret au lieu de partager, quitte à changer la société.
Pardon ? C'est un secret de polichinelle. Ils ne maintiennent pas le secret. Ce qu'ils maintiennent, c'est une société en place et les amortissements en cours. C'est tout ce qu'ils maintiennent.
Bah, ils doivent avoir vraiment les jetons parce que...
Oui, non, mais non. Nous, on voit ça... Évidemment, si on analyse ça d'une manière raccourcie, on a des déductions raccourcies, mais si on rentre en profondeur dans le réel problème du sujet... On se rend compte que y a d'énormes, mais il y a des sociétés en jeu. Imaginez-vous que demain, si on change de technologie, il y aurait un milliard de chômeurs d'un seul coup. Qu'est-ce qu'on va faire ?
Travailler moins.
Travailler moins, oui.
Oui, ça c'est vrai, mais il faut abolir la monnaie, il faut tout abolir, et ça c'est pas, ça n'arrivera pas.
C'est pas impossible. C'est pas impensable.
C'est pas impensable.
Mais il suffit de le concevoir.
Oui, c'est pensable, évidemment.
C'est le premier pas.
On est des précurseurs des utopies d'avenir.
Oui, mais l'utopie, c'est ce qui fait vivre. Hein. C'est jamais que la poursuite d'un rêve vers l'avant.
Oui, c'est vrai. Mais bon, il faut aussi laisser le temps au temps. Et que s'il faut faire des bains de sang pour arriver à évoluer, non, moi, je ne suis pas d'accord.
Non, mais dénoncer, comme on l'a fait tout à l'heure, ce qui est arrivé à Guy Nègre, donc cet inventeur du moteur à air comprimé, le dénoncer, c'est peut-être aussi éviter que le même sort arrive, soit fait à un autre inventeur dans une autre catégorie.
Je vais être un peu trivial, mais je dirais que le temps, quelquefois, il est bon de lui donner quelques coups de pied au cul, histoire de faire avancer les choses un peu plus rapidement. C'est pas des bains de sang, c'est simplement de diffuser de l'information massivement vers le grand public, c'est déjà une chose. C'est un combat de Don Quichotte, ça. Et on va s'y employer, en tout cas à notre niveau, mettre le plus possible d'informations technologiques. Sachez ce que vous avez entre les mains, sachez ce qu'on ne vous donne pas, alors que vous seriez en droit de le réclamer. C'est le but de ce qu'on veut faire à Don Quichotte.
Mais attention, il faut savoir que ces technologies-là existent dans des domaines privés.
Oui, mais c'est pas intéressant.
Elles ne sont pas à la portée de tout le monde.
C'est pas intéressant tant que ça reste dans ces domaines-là. Ce qui est important, c'est que ça rentre dans une sphère publique et que la civilisation en elle-même en profite, quitte à des bouleversements.
Remet en cause toute la gestion des masses humaines.
Oui, on mais pas cause. Forcément des masses humaines.
Ah si. C'est incroyable. C'est une révolution en même temps d'état d'esprit, de pensée, de gérer.
Mais est-ce que je dis un paradigme
de tout.
Oui, c'est un paradigme différent.
Ouais, un paradigme. Est-ce qu'on est apte à l'avoir ? Et est-ce que si on développe ces technologies-là et qu'on les laisse à la portée de tout le monde, on va pas avoir des drôles de zigotos qui vont nous faire des drôles de vacheries avec ?
On peut tout supposer.
Ah voilà. Voilà.
Mais actuellement, on a déjà de drôles de zigotos qui nous font pas mal de vacheries avec ce qu'ils ont.
Oui. Mais ça, c'est un autre domaine, ça. C'est le domaine de la politique et je ne tiens pas à rentrer dedans.
Oui, non, sans rentrer là-dedans. Hein. Simplement, c'est on sait qu'on aurait des énergies non polluantes. Donc, à mieux vivre.
On pourrait donner des ailes aux voitures et des ailes aux gens. C'est simple.
Oui, c'est comme les affiches qu'on avait dans les années 60 qui montraient l'an 2000. où il y avait des voitures volantes.
Des routes, voilà, des routes guidées au laser, mais à basse vitesse, attention, hein. Pas des trucs infernales qui passent comme ça, non. Des voitures qui passent, style des ULM, mais sans bruit. Sans aucun bruit.
Ouais, ouais. Voilà. Je le crois volontiers.
Comme un oiseau qui passe.
José nous dit sur le chatroom, tout le système économique repose sur l'inégalité, l'inégalité. Si tu la rétablis brutalement, ça s'effondre. Bon, mis à part le fait que j'y réponds et pourquoi pas, personne n'a dit qu'il fallait faire brutalement les choses. Mais simplement, c'est aussi une émission comme celle-ci, un appel à ceux qui sont actuellement les collabos de certains secrets, de simplement de balancer, de dire voilà sur quoi nous travaillons actuellement, ça pourrait apporter du mieux-être à l'humanité, mais on ne tient pas à ce que ça se sache parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Toutefois, il est bon quand même de faire profiter l'humanité assez rapidement pour éliminer la famine de quelques merveilles technologiques qui sont là dans les couveuses, bien au chaud, bien cachées.
Oui, comme flinguer quelques maladies aussi, qui sont peut-être artificiellement créées par...
Ils ont créé dernièrement, là j'ai lu sur Science et Vie ce mois-ci, ils ont réussi à composer complètement à partir d'un bain d'acide aminé et d'électrolyse, etc. Ils ont réussi à recomposer le virus de la polio à partir de rien. Ils ont dit, tiens, comme on connaît la formule, l'ADN, ARN, on va essayer de recomposer ce truc-là. Ils l'ont réussi, et ils l'ont injecté aux souris, et ça marche, quoi, ça devient vraiment la polio. Donc, faut pas s'inquiéter. Hein.
C'est édifiant.
Pardon ?
C'est édifiant.
Ça veut dire que l'homme, il est bien ce qu'il est. Hein.
Oui, on peut peut-être aller vers une transition douce.
Oui.
C'est le but de la chose. Quoi. Moi non plus, je ne vois pas une révolution sanguinaire, je ne vois pas l'intérêt non plus.
Voilà, c'est ça, il ne faut pas non plus mettre le feu aux poudres.
Et Ataraxie nous dit, l'homme est l'espèce qui s'adapte le plus vite, donc je n'ai aucune crainte là-dessus.
Oui, je le rejoins assez...
Ataraxie, c'est Christophe, évidemment, Christophe Dedici qui est sur l'autre ligne, et qu'on entendra à nouveau lorsqu'on aura abouti à une conclusion avec Yvon. Est-ce que Yvon a le sentiment d'avoir... d'avoir fait le tour de la question.
Oh bah oui, parce que sinon on peut passer la nuit.
Oui, c'est chacun son tour. Cette semaine, c'est Christophe Leleu et Christophe Dedici. Une fois suivante, pourquoi pas Yvon, effectivement.
Mais écoute, j'ai noté Christophe Dedici. Et puis, je vous remercie de votre émission qui est formidable parce que ça, c'est une preuve c'est une belle preuve d'évolution humaine.
Très bien, merci.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Merci Yvon. Alors, Christophe Dedici, dites Ataraxie sur le chatroom ici et maintenant de forumrine.com.
Oui,
on va pouvoir l'entendre à nouveau.
Oui, rajouter quelque chose à ce qu'a dit l'intervenant au téléphone par rapport à l'énergie libre. Parce que quand j'écoutais, je me posais aussi la question. Et c'est vrai que l'énergie libre, ça paraît être de la magie. Et il faudrait quand même penser pourquoi l'énergie libre ça prend pas comme ça et que les gens, 99%, la rejettent, quoi. En fait, je pense que ça part de sur les bancs de l'école, quoi, ce qu'on nous apprend. Et en fait, ce qu'on nous apprend, pour simplifier, c'est que l'énergie matière, c'est dès la création du Big Bang, si vous voulez, c'est une constante. Donc, l'énergie qu'on crée, il faut qu'on la prenne quelque part. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc, comme quand moi tout à l'heure je vous parlais des bombes antimatières, je vous ai dit que c'était une petite bombe nucléaire qui engendrait une bombe antimatière. Donc, une petite bombe de certaines quantités d'énergie en engendre une mille fois plus puissante. Donc, pour un scientifique d'aujourd'hui qui a appris toutes ces choses, toutes ces constantes, pour lui c'est impossible. Donc, il rejette d'entrée et c'est même pas la peine d'en discuter, quoi. Donc il faut il y a deux solutions. Soit ce qu'on nous apprend à l'école c'est incomplet.
Ça l'est.
Soit l'énergie libre ça existe pas, quoi. Mais bon, il faut voir ce que c'est réellement. Et c'est vrai que l'énergie libre, si on crée de l'énergie libre, il faut bien avoir quelque chose qui explique comment elle naît, quoi. Donc sinon
c'est une question d'éducation.
c'est une question d'éducation, mais c'est une question aussi de science incomplète. Je pense que si le, par exemple, le modèle Gemellaire de Sakharov ou de Jean-Pierre Petit, c'est une solution pour expliquer l'énergie libre. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler des lifters. On en parle ce mois-ci sur Science Avenir.
Oui, j'ai vu quelque chose comme ça. Voilà, j'ai vu la photo.
Voilà, j'en parle sur mon site. J'ai vu que ce mois-ci, c'était à l'honneur dans Science Avenir, Air et Cosmos, et puis peut-être dans d'autres revues. Mais les lifters, ce sont des petits objets qu'on peut fabriquer soi-même en aluminium, en balsa. Quand on branche à un générateur électrique, en général, on récupère un vieux moniteur de PC, un écran qu'on démonte selon les conseils qui sont donnés sur les sites. Et puis, on fournit l'électricité à ce petit objet en balsa, aluminium, fil de cuivre, collé selon une géométrie particulière. Et puis, l'objet, il est vite, il monte. Dès qu'on envoie, une tension en moyenne 30 000 volts,
est-ce que j'ai lu
cet objet décolle, on le maintient au sol avec des petits fils en nylon, sinon il partirait trop loin et il se détacherait de la source électrique. Et cet objet l'évite en l'air. Donc là aussi, il y a un problème d'énergie, il y a un problème d'explication. Alors il y a les partisans, si vous voulez, de l'explication du vent d'ion, ce qu'on appelle le vent d'ion, c'est un phénomène électrocinétique. Ou si vous voulez, les molécules d'air ionisées viennent frapper dans l'objet. Enfin, il y a une force qui naît par rapport à des forces électrostatiques. Et il y a une autre partie qui dit que c'est une force inconnue qu'on appelle l'éther. Donc, qu'on peut puiser dans l'éther. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une partie des scientifiques qui sont éthéristes, on va dire, et une autre partie qui sont restés relativistes. Et là aussi, c'est un problème d'énergie. Donc, pour que cette force inconnue naisse, on ne sait pas quelle est l'énergie qui l'a fait naître.
Mais c'est déjà bon. Ça faisait l'objet d'une conversation avec Jean-Pierre Petit il y a quelques temps, de voir si un lifter peut voler dans une cloche à vide.
Dans une cloche à vide, voilà. Donc c'est la question que Jean-Pierre Petit, justement, et lui, il pense que le lifter, c'est juste un phénomène de vent d'ion. Donc l'énergie, l'explication d'où vient l'énergie, de toute façon, la source d'énergie est électrique. Mais si vous voulez, il y a une partie de la force. Alors, Jean-Pierre Petit a dit ça, mais enfin, moi je ne suis pas encore convaincu à 100% que l'explication des lifters est uniquement le vent d'ion, parce qu'il y a une expérience soi-disant qui a été faite à l'université de Purdue, si je me rappelle bien du nom, mais dans une cloche à vide aussi, avec un vide de 10-5 Thor, si je me souviens bien des valeurs. Et c'est pas le vide absolu, mais apparemment ça a marché. Alors, j'essaie de me documenter, le site ne marche plus. Bon, et c'est vrai qu'il faut faire l'expérience, il faut voir ça, quoi. Dans tous les cas, ceux qui ont fait des expériences, ils pensent que le vent d'ion participe à 90%, j'invente. Et puis il y a encore un petit pourcentage de force inexpliquée, quoi. Donc là aussi c'est un problème d'énergie, d'où vient l'énergie, enfin c'est pas un problème d'énergie mais c'est un problème de force, quoi, inexpliqué. Dans tous les cas il y a un problème derrière, quoi.
Mmh. Tu peux expliquer ce que c'est que le vent d'ion?
Le vent d'ion, vous le verrez sur le site, il y a un schéma animé qui vous explique ça très bien sur un site, il faut aller voir sur le site ou taper lifter. Lifter, vent d'ion, vous le trouverez. Ce sont en fait, quand le lifter se met en marche, enfin, quand on envoie la tension électrique de 30 000 volts, donc c'est dans un petit fil de cuivre en forme de triangle, si vous voulez, et autour du fil de cuivre, il y a un champ électromagnétique qui se crée, donc, et puis il y a une ionisation de l'air entre donc une électrode, des deux électrodes, si tu veux, et puis l'air ionisé, les molécules d'air sont déplacées vers le bas. D'accord.
Oui.
Et ensuite, vous avez une force, donc au niveau ça se passe au niveau moléculaire, on va dire. C'est une force électrostatique entre le pôle plus et le moins. Et c'est au niveau moléculaire, c'est uniquement un déplacement de molécules, si vous voulez. On appelle ça un vent. C'est comme un vent. Vous mettez une fumée de cigarette au-dessus, vous allez voir tout le déplacement de l'air, en fait. Et c'est très flagrant. D'ailleurs, il y a une vidéo sur le site de. Je vais vous citer le site, c'est Jean-Louis Naudin. Donc vous tapez JL Naudin. .free.fr il me semble, et puis vous le trouvez, quoi. Vous trouvez toutes ces vidéos, tous ces schémas qui expliquent très bien le phénomène.
J'ai le Naudin, elle a eu des.
Je vais vous donner peut-être. Oui, je vais regarder entre temps. Je vous enverrai le lien exact.
Et puis il y a toujours Quantum.
Quantum,
simplement évoqué tout à l'heure.
Quantum.
Oui.
Oui, Quantum, vous l'avez le lien.
Quantum, Q-A-N-T-H-O-2-M-E.
Alors attendez, je vais regarder en attendant.
Sur les énergies renouvelables, c'est le portail, disons, de ces énergies. Quantum.
Voilà, c'est un portail sur les énergies libres, donc le moteur à eau, oui, Quantum. Mais les lifters, c'est Jean-Louis Naudin, c'est un autre site.
Oui, bien sûr, mais via le portail Quantum, on tombe assez rapidement chez Naudin.
D'accord, bon voilà, ben c'est parfait.
C'est un portail intéressant, Quantum,
oui,
dont Naudin en particulier. C'est intéressant le net parce que depuis quelques années maintenant, chaque inventeur y va de sa page et expose sa création. Alors qu'avant, il n'y a pas si longtemps, il fallait plaire à tel rédacteur de Science et Vie, par exemple, d'une revue, attirer son attention pour obtenir peut-être un petit mot sur ses recherches. Alors que maintenant, il n'y a plus besoin d'en passer par là. Chaque chercheur peut publier et se faire connaître. Et donc, il y a une profusion maintenant sur le net de projets, de moteurs, de toutes sortes. D'énergie renouvelable, etc. Ça apparaît enfin à la surface. Il y avait donc ce monopole de la connaissance, il n'y a pas si longtemps encore, et qui a donc explosé maintenant.
Il est certain que s'il y a une révolution des énergies, ça ne passera pas sans Internet. La mise à disposition de la connaissance se fera via Internet. On aura Internet comme on a le Minitel, assez bêtement en fait, ce Minitel, qui pourtant était un engin assez sophistiqué en son temps, mais qui maintenant se retrouve complètement caduque, et pourtant il faut encore payer 36,15 pour avoir accès à des banques de données. Mais Internet prend le relais, et on a un fabuleux outil de diffusion, ça il n'y a pas de problème.
Et chacun peut construire son journal, n'est-ce pas, Ataraxi?
Oui.
Ataraxi.free.fr. Quel promo ce soir, mais c'est en remerciement des efforts et des centaines d'heures que tu as passé à le construire patiemment au fil des années.
Depuis 1996, donc. Mais bon, c'est très lent en fait. Il faudra avoir. Il faudrait passer son temps, quoi. Mais bon,
on n'a pas cité le site de Petit. On a beaucoup parlé de Jean-Pierre Petit, mais on n'a pas rappelé son site jp-petit.com.
Oui, avec 3W devant.
Non. Si. Bon, le navigateur les ajoute quand il y a besoin, non?
Oui.
Non?
Ça dépend du système, mais...
Bon, quoi qu'il en soit, jp-petit.com. Allez, on se fait une pause musicale très courte. On rappelle le standard, et puis je vous rappelle aussi que nous sommes avec
Christophe Leleu ici à Paris, à côté de moi, et Christophe Guidetti, qui est à l'autre bout de la France et qui est par téléphone. Donc une ligne est libre, 01 45 75 44 44. Thank you. est maintenant 95.2 avec Christophe Giudici, webmaster, webmaster de ataraxie.free.fr et Christophe Leleu, webmaster, webmaster de miragexpress.free.fr avec un lien vers l'association en cours de constitution Don Quichotte pour obtenir la levée du secret sur un bon nombre de phénomènes, en particulier les connaissances dont disposent les autorités concernant les ovnis et dont on ne nous donne que des bribes que l'on discrédite. Et comme on l'a vu au cours de cette émission, déjà avec plusieurs exemples, on nous discrédite une chose pour éviter de la diffuser. Donc un refus du partage est toujours le mur du silence. Et sur, avant que nous recevions Jean-François, sur le chatroom de Ici et Maintenant, dans l'adresse forumrim.com/chat, NetRadio nous dit se posent les moyens de la recherche et de la connaissance, la nécessité des publications dans les médias spécialisés, tels le Lancet pour les médecins. Cela demeure une grande obsession chez les scientifiques, car le moteur du financement, c'est la notoriété. Bon, enfin, la popularité d'un site internet est en train de la remplacer. C'est une autre manière d'accéder à la notoriété, absolument. La fréquentation d'un site internet. Et ça fonctionne par le bouche à oreille, ou à travers les émissions de radio, par exemple. Nous accueillons Jean-François.
Allô ?
Bonsoir.
Oui, bonjour. Oui, en fait, en vous écoutant, je me posais un peu la question de savoir si il n'y avait pas une solution peut-être plus simple, c'était de limiter la quantité de personnes sur notre planète, parce que c'est vrai que les problèmes, en fait, sont aussi liés à ça, parce que plus on est, plus on pollue. De toute façon, quels que soient les moyens techniques qu'on puisse employer, on aura effectivement certainement moins de pollution, mais de toute manière, on arrivera à une valeur asymptotique de cette pollution. On ne pourra pas continuer à aeternum comme ça, que ce soit dans le domaine du pétrole ou même d'autres domaines d'énergie. Je pense que toutes les sources d'énergie, de toute façon, sont quand même polluantes à la base.
Oui, quand on pense, Jean-François, à ce nuage monstrueux sur l'Asie... Tu as entendu parler de ça, au-dessus de l'Inde et de l'océan Indien?
Oui, tout à fait.
Ces nuages gigantesques.
Ouais, c'est vraiment c'est désespérant, parce que en plus, bon, c'est vrai, on a souvent cette vision des choses par rapport à la technologie, en pensant que les pays riches pollueront moins que les pays entre guillemets pauvres. Mais en fait, je pense que tout le monde pollue à peu près de la même manière, quoi. Je veux dire, on n'a pas les mêmes manières de polluer, mais globalement, on a quand même que ça on a toujours des énergies qui polluent. Alors c'est vrai que on peut essayer d'imaginer des technologies qui à mon avis existent, c'est évident, qui sont pas vraiment plaisantes pour tous ceux qui utilisent habituellement le pétrole, parce que pour eux, évidemment, c'est, comme le disait un des interlocuteurs, c'est l'obligation de remettre en question tout un système industriel, même de bouleverser les habitudes, effectivement, de nous tous, hein. Mais globalement, bon, c'est vrai qu'il y aurait une solution qui serait de... Parce que, bon, on peut pas non plus limiter... comment faire pour limiter? Et limiter comment? Est-ce qu'il y a une conscience collective? La question, déjà, elle est là. Est-ce qu'il y a une conscience collective des hommes qui d'eux-mêmes, limiteraient la quantité d'individus sur la planète? Je ne pense pas. Donc, puis c'est pas, à mon avis, souhaitable. Donc, il y aurait une autre solution, ce serait effectivement de partir par petits groupes, quoi, d'aller coloniser des planètes qui seraient viables. Mais là, c'est vrai que ça demande une autre technologie encore qu'on n'a pas non plus. Donc, c'est vrai que la solution, elle est où là-dedans? C'est pas évident. Il y a beaucoup de possibilités, mais il y a aussi un problème de temps, parce que c'est quand même exponentiel, notre vitesse de développement actuellement, que ce soit au niveau humain, au niveau des ressources en énergie, au niveau alimentaire. Je veux dire, on voit bien qu'on ne pourra pas, comme certains futurologues nous le proposent, attendre 2100 et se retrouver 40 milliards d'individus sur la planète. Ça me paraît inconcevable, quoi. À moins de vivre dans un monde qui serait vraiment plus un monde, quoi, qui serait un cauchemar. Mais
tu veux dire qu'à 100 ans, 40 milliards, c'est une projection réaliste ou c'est un chiffre
c'est une valeur complètement théorique, parce que c'est vrai qu'on voit toutes les projections possibles. Je veux dire que ça serait sur 100, 200 ou 300 ans, je pense pas qu'on pourra multiplier la population humaine par 15 ou par 20, même si les chiffres, apparemment, c'est ça qu'ils prévoient, mais ça semble cauchemardesque, quoi, je veux dire. On peut pas... C'est pas un problème de territoire, parce qu'on a suffisamment de surface, mais au niveau de l'énergie, au niveau de la nourriture, au niveau de tout, et puis au niveau de la pollution qu'on crée nous-mêmes, parce que un individu, de toute façon, il pollue, il crée des déchets, les déchets, en l'occurrence, on peut parler du plastique, puisque tout à l'heure on parlait du plastique.
Le pétrole.
Le pétrole, le plastique, tous ces dérivés, ça génère quand même énormément de...
Mais j'ai une question à ce que tout ce que tu soulèves, notamment au niveau de la surpopulation. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un créneau, là, qui est le fait de la surpopulation à venir, et qui peut être vu comme une catastrophe, serait régulé par des énergies non polluantes, par un recyclage d'énergie
intelligent,
par des énergies douces.
Ah oui, oui, je pense.
Est-ce que la prise de conscience, elle est peut-être là? La barrière, la limite, c'est peut-être ça. Ouais. C'est combien va-t-on être d'ici 100 ans sur cette Terre, d'ici 200 ans, d'ici 300 ans? Comment résoudre ça? Parce qu'on va pas non plus se géniser les uns les autres.
Ah non, pas du tout. Non, mais je pense que effectivement le souci il est là, c'est d'un côté la prise de conscience qui est quand même importante chez les gens, et puis la prise de conscience qui veut pas être vue justement de par toute l'industrie, de par tous ces modes de fonctionnement, et en fait j'ai un peu peur quand même que le jour où ils prendront conscience réellement de tout ça et qu'ils décideront réellement à mettre en œuvre des choses concrètes, quoi, je veux dire. Bah, nous proposer des solutions, comme c'est trop facilement souvent montré, au niveau des énergies nouvelles, des solutions comme la voiture électrique ou des choses comme ça, qui, si on fait le calcul, il n'y a pas besoin d'être physicien nucléaire pour se rendre compte de ça. En fait, on voit très bien que c'est encore pire que la voiture à essence, parce que l'énergie nucléaire, parce que c'est l'énergie nucléaire qui fournit, qui est proposée, parce qu'en fait, on nous remplace les pétroliers par le lobbying de l'industrie électrique, quoi. Donc en fait,
qui nous pourvoit en déchets pour des siècles.
Voilà, c'est ça. Alors qu'on pourrait fournir cette énergie électrique d'une autre manière, et là on aurait réellement une solution intelligente. En fait, c'est souvent ça le problème, c'est-à-dire que c'est un peu comme tout, c'est un peu comme la télévision, comme n'importe quel phénomène de physique, ça peut être utilisé de manière intelligente ou alors ça peut être utilisé de manière complètement stupide et être complètement en dehors du sujet, quoi. C'est un peu le souci que j'ai là-dessus, parce que moi je pense qu'il y a effectivement énormément de solutions. Alors ça demande effectivement une volonté politique, une volonté industrielle, mais d'un autre côté ça demande aussi une prise de conscience des gens. Et ce qui est assez dur, c'est en fait, c'est pas la partie sur les populations. Je pense que les gens, ils en sont extrêmement conscients de ça. Mais
Je ne sais pas si les gens sont si conscients.
Ah si, je pense quand même. Je pense quand même.
Pas partout.
Pas de tout peut-être, mais des choses essentielles. Je pense sur des choses essentielles, il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui prennent conscience de tout ça. Par contre, c'est vrai que les solutions, elles demandent une réorganisation, je pense, de nos sociétés, quelle que soit la société en question, que ce soit effectivement l'Inde, les États-Unis ou l'Europe. De toute façon, c'est quand même toute une réorganisation qui est... je suis pas tellement d'accord avec ce que disait l'interlocuteur, tout à l'heure sur le coût effectivement de tout ça, parce que je pense que les choses peuvent pas se faire brutalement, elles peuvent être qu'étalées dans le temps.
Oui,
et par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une réelle volonté, et puis surtout un carnet bien établi à l'avance de tout ce qui doit être fait, comment ça doit être fait. On peut pas bousculer les choses, les habitudes des gens et transformer tout d'un coup. À mon avis, c'est une révolution, mais une révolution calme, entre guillemets, et à long terme, quoi, je veux dire.
Regarde, il y a 10 ans, personne n'avait de portable.
Ouais, tout à fait.
Maintenant, c'est devenu un geste commun, comme de se moucher d'utiliser son portable.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que la science-fiction, on vit pas mal de choses aujourd'hui qui proviennent directement de la science-fiction. Il y avait déjà, il y a 25-30 ans, des séries de science-fiction, que ce soit en comics ou même en série télé ou en film, qui étaient, dans lesquelles on voyait des choses, effectivement, qui, à l'époque, nous paraissaient... pas utopique, mais presque. Et en fait, aujourd'hui, toutes ces choses sont intégrées dans notre vie de tous les jours. C'est assez bizarre de voir que ce qui, même il y a seulement 20-25 ans, paraissait totalement utopique, ça fait partie des réalités quotidiennes de pratiquement tout le monde. Et je pense qu'il y a aussi... On verra un peu la même chose avec ces problèmes d'énergie, etc., sur des solutions qui nous paraissent, même aujourd'hui, complètement folles, quoi, et que...
non, justement, raisonnable.
Oui, enfin, folle dans le sens utopique, quoi. Et en fait, je pense que l'utopie passera sur tout ça, parce que c'est un passage obligé, je pense.
De toute façon, le monde, depuis qu'il existe, ça n'avance que par utopie.
Oui.
On a inventé la roue, on a inventé, je sais pas, l'électricité, on l'a pas inventé, on l'a trouvé.
Une remarque un peu caustique de Net Radio, mi-chemin de la vérité et l'humour. Net Radio nous dit, quant à la régulation des naissances, il dit ça existe déjà, ça s'appelle les maladies infectieuses, les famines. Malheureusement, les victimes ne sont pas celles qui polluent le plus.
Oui, mais je pense qu'il faut quand même rectifier les choses, parce qu'il y a 100 ans, si on regardait sur une population... déjà sa durée de vie, si on regardait le nombre d'enfants morts à la naissance, si on regardait tout ça, on se rendrait compte quand même que même si la médecine a encore des progrès à faire, elle a quand même permis de protéger énormément de gens, et qu'il y a énormément de gens qui ne seraient pas vivants en ce moment si la médecine d'aujourd'hui n'était pas aussi efficace quand même.
Pardon, est-ce que l'Afrique serait menacée par un sida comme elle l'est, si le virus n'avait pas été produit par l'homme.
Oui, ah ben c'est le problème de l'homme. Hein. D'un côté, il produit des armes, il produit de la destruction. De l'autre côté, en même temps, il est capable de produire le remède. Alors la question, effectivement, c'est de savoir le remède est pour qui et à quel prix, quoi. C'est vrai que bon, ça c'est un cas quand même assez navrant quand on pense à ce qui a été fabriqué et comment ça a été.
Je me souviens des paroles de Jean-Pierre Petit qui disait, je suis assez triste, parce que depuis 30 ans, avec tous les trucs fabuleux qu'on découvre, ça ne sert qu'à l'armement et à la destruction.
Ouais, c'est vrai.
Et
mais quelqu'un d'autre répond, il n'y a que les militaires qui ont les moyens de chercher.
Oui, c'est pas
parce qu'on le veut bien, c'est aussi une option politique, ça. C'est les budgets qui sont mis. Les budgets militaires, ils tombent pas de nulle part, ils tombent de la poche du civil aussi.
Sans le contrôle des civils sur l'argent dépensé.
D'accord.
Ouais, ça s'appelle les caisses noires.
C'est Einstein qui disait, je crois, que le problème de la science, c'est que c'est malheureusement pas quelque chose qui améliore qui donne le bonheur à l'homme. Et c'est peut-être un peu le souci, c'est qu'effectivement là, on a tout basé sur la science, on a totalement éradiqué, enfin je parle de la France là, on a totalement éradiqué tout ce qui était, n'oublions pas le 21e siècle sera pas. Mais en fait c'est un petit peu ce problème aussi, c'est qu'on a une société extrêmement technologique, extrêmement cartésienne, extrêmement basée sur la rentabilité. Et en fait je pense que si on n'oublie pas une partie de cette rentabilité, ou si on réorganise pas plutôt notre système et on ne passe pas sur autre chose.
Tu ne crois pas que le système actuellement, ce qu'on appelle ultralibéral ou libéral, enfin bon, économique, montre bien les limites précisément de cette production pour de faux, en fait.
Je crois qu'on est arrivé au bout du système, en fait.
Le système arrive au bout de sa logique, en tout cas.
Oui, on est arrivé au bout de ce système-là, parce que je pense que on continuera, on va patauger si on ne prend pas une une nouvelle voie.
On va faire de plus en plus de malheureux, surtout, et y compris dans nos sociétés dites civilisées, riches. Mmh. C'est-à-dire que le chômage va être endémique, parce qu'on sera à la merci de flux boursiers qui n'ont rien à voir avec la réalité d'une économie saine, en fait. Mmh. Et,
ils sont totalement artificiels.
Complètement.
Mmh. Tout à fait, oui. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur la nécessité d'avoir des chômeurs, effectivement, pour réguler
une masse salariale et pas trop la payer. Oui.
Voilà, pour leur expliquer que, écoutez, si les choses vont mal, regardez, ça pourrait être pire, donc on vous conseille de vous taire et de continuer. Quoi. C'est vrai que ça ressemble, c'est un petit peu aussi, excusez-moi, le reproche que, enfin, une phrase que j'entends souvent en ce moment, c'est tout le monde parle et à tout va de démocratie, démocratie, démocratie. Et en fait, c'est un petit peu terrifiant parce que faut pas oublier que c'est effectivement les peuples qui eux-mêmes se créent toutes ces conditions et acceptent ces conditions et
se condamnent eux-mêmes.
Et oui, et en fait, c'est pour ça que le peuple démos, là, c'est un peu le problème de conscience collective dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que est-ce qu'elle existe réellement, cette conscience collective? Il y a des prises de conscience, ça c'est évident, mais au-delà de tout ça, il y a quand même du souci à se faire, je pense, sur réellement la prise de conscience, jusqu'où elle existe et vers quoi elle tend, quoi.
Moi, je suis relativement confiant. Quoique confiant, nuancé, hein.
Ouais.
Au sens où malgré tout, il y a quand même une vague qui existe. Il y a des courants altermondialistes, tout ça. C'est les gens qui participent de cette prise de conscience-là, que le monde est en péril, qu'on est en train de le bousiller, et que toutes les énergies qu'on déploie actuellement on va dans le mur avec ça, quoi.
Ah oui,
bon. Et c'est une militance qu'on classe à l'extrême gauche parce qu'on veut la discréditer, mais en réalité je pense que c'est des gens qui ont pris conscience d'un tas de choses et qui refusent des choix qui sont pas les leurs, et ça me paraît sensé.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment des choix, en fait, c'est des choix qui ont effectivement été faits par d'autres, et voilà. Depuis longtemps, d'ailleurs.
Des options, bien.
Et depuis trop longtemps, ils n'ont pas été remis en question, et on vit là-dessus, mais je pense que, comme on le disait, c'est pas possible, hein. On verra le mur à un moment, il vaudrait mieux, effectivement, prendre des mesures avant, plutôt que... Je pense qu'il y a déjà assez de gens comme ça qui souffrent de tout ça. Et
oui, s'il n'est pas trop tard.
Je ne pense pas qu'il soit trop tard, mais...
Attends la suite.
Non,
la suite, dans 3 minutes. Je vais aborder un autre truc avec Christophe.
Quelquefois, je trouve qu'on n'est pas loin du général Nivelle qui envoie ses troupes au casse-pipe, quoi.
À force de se dire, de se répéter qu'il n'est pas trop tard...
Il sera pas trop tard.
Oui, on n'aura pas vu l'orage se déclencher, mais on va aborder ça avec Christophe. Est-ce qu'on a fait le tour, Jean-François?
Oui, tout à fait.
Bien.
Ok, je vous souhaite une bonne soirée.
Tu viens de révéler un animateur, la personne de Christophe Leleu, là, à côté de moi. Il se disait timide, pas du tout. Ça y est, il est chaud là maintenant.
D'accord.
Merci, Jean-François.
Bonsoir.
Alors, sur le chatroom, qu'est-ce que nous dit... Avant de retrouver Christophe Giudici, Net Radio nous dit ceci: le siècle devait avoir de l'esprit, il a eu de la religion. Et d'une, et il dit, c'est la dimension de la névrose, tout simplement, bon monsieur, tant que tu n'as pas mal. Tetris nous dit, la conscience collective doit être organisée et canalisée à des niveaux différents afin de converger vers une stratégie globale de préservation contre certains drames humains.
Ça veut tout dire et rien dire, ça.
Pour lui, sans doute.
Peut-être
pour lui, c'est très clair.
Oui.
Christophe Giudici, le pire est à craindre. Tu me disais par un mail il y a quelques heures, ou un jour ou deux, que tu avais vu, et je me souviens d'avoir vu aussi un film, un reportage, un documentaire sur Arte. Il y a ça 2 ans, 3 ans,
On va dire 5 ans maintenant.
5 ans déjà, 97.
Ça passe.
Sur l'île poubelle, la bombe à retardement.
Oui.
Et ils en cherchent la cassette. Alors évoque-nous un petit peu ce documentaire pour rafraîchir les mémoires.
Oui,
et on va demander aux auditeurs s'ils l'ont.
Voilà, je vais simplement relire ce ce que je demande, quoi. Donc en fait, c'était une émission, donc une série d'émissions sur la Russie, quoi. Et il y avait un des documentaires, donc d'une heure, sur le polygone d'essai de Nouvelle-Zemble.
Mm-hmm.
Donc, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est une sorte d'un archipel qui se trouve dans le nord sibérien, au large, quoi. Tranquille, loin de tout, loin des gens, loin des yeux, des regards.
Désaffecté, mais toujours affecté, oui.
Voilà, on fait des essais nucléaires, donc à l'époque à l'air libre, maintenant souterrain, et puis encore certainement souterrain, quoi. Donc ce documentaire est germano-polonais. Alors l'auteur, c'est Jerzy Sladkowski, donc germano-polonais. Tout à la fin de l'émission, il interview un officier, bon, apparemment retraité, parce qu'apparemment il travaillait plus, quoi. Mais quand même filmé de dos ou dans le noir, ou les deux, filmé de dos et dans le noir.
Et dans un tunnel.
Voilà, et qui parle aux journalistes, et qui apparemment a fréquenté le lieu. Et lui dit, en gros, il lui dit que la plus grosse bombe de la Nouvelle-Zemble n'a pas encore explosé, et que d'ici à 30 ans, bon, on va dire maintenant 25, puisqu'il y a déjà 5 ans, donc il nous reste 25 ans encore, ça sera fait. Donc voilà, quoi. En fait, c'est est-ce que c'est encore une histoire de bombe antimatière, c'est la question que je posais, quoi. Donc en tout cas, les Russes font plein pot des expériences pour faire des bombes, certainement les Chinois.
Est-ce que ce serait vers la presqu'île de Sakhaline?
Non, ça ne me semble pas
vers le Japon.
L'opposé, Sakhaline, c'est près du Japon. Là, c'est plutôt plus près de Mourmansk, là où a coulé le sous-marin Kursk. C'est pas loin du pôle Arctique. Donc c'est ce qu'on appelle une île poubelle nucléaire, parce qu'on y a coulé des vieux sous-marins russes en fin de carrière avec leurs réacteurs. On y a jeté des déchets nucléaires. Bon, en France, on critique la Hague, mais les Russes, ils jettent ça en mer au large.
Et ils ont jeté en prison leur écologiste après un procès retentissant.
Voilà, il y a, une personne qui a fait... Voilà, oui, il y a un chercheur qui est mis en prison, oui, c'est ça. J'ai entendu parler de cette affaire. Ouais.
Donc tu recherches cette cassette.
Voilà, donc si quelqu'un a cet enregistrement, ben, je lui paye les frais, je lui paye tout, et j'aimerais bien avoir cette vidéo, quoi.
Et il te la porte à la main.
Voilà.
Et il a le TGV.
Remboursé au double.
Bon. Et pour cela, il va sur ton site et...
Il y a mon email sur le site, il suffit de me contacter, quoi. Donc, et ensuite, je lui transmettrai tout ce qu'il faut pour me joindre.
Bien. Alors, une VHS d'une émission Arte d'il y a 5 ans, sur cette île, la zone de Zemblé, c'est ça ?
Nouvelle Zemblé, on va dire.
Peut-être que tout simplement, il suffit de la demander à Arte. Oui. Mais ça, apparemment, il a essayé, mais sans succès pour l'instant. Bien. Alors, 45-75 vous attend, 45-75, 44 deux fois, pour dialoguer avec Christophe Ngudeschi et puis Christophe Leleu.
Radio ici maintenant, 95.2. Christophe Guilici, qu'est-ce que nous n'aurions pas dit?
Taraxi, qui n'est autre que Christophe Guilici, nous fait remarquer qu'au bout de 3 heures, il a l'oreille qui chauffe. Hein,
c'est ça, j'ai téléphone. Pas sommeil.
Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit?
Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ben, par rapport à quoi? Aux ovnis? Ou... On va dire qu'en fait...
aux ovnis, aux secrets, à l'industrie, en fait, à la pollution...
Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le sujet ovni, en fait, nous fait parler de tout, et ce qui est, c'est très bien, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut, en fait. Hein. C'est, le sujet ovni, c'est pas un jeu, c'est pas une petite passion, comme on collectionne des timbres ou quoi, c'est quelque chose qui nous amène à une réflexion profonde. Et on voit qu'en fait, tout au long de l'émission, on a parlé de tous nos problèmes, quoi, hein, problèmes quotidiens. Et je crois que c'est le plus important, hein. C'est ce qui nous amène à réfléchir sur nous-mêmes et ce qu'on devient, ce qu'on va devenir. Donc ça, c'est la première des choses, quoi. Après, ben, ça nous donne aussi l'espoir qu'il faut essayer d'être, de lutter, quoi, contre cette inertie, quoi, des gens et tout. Il faut essayer de faire bouger les choses. Ça, c'est la deuxième chose, quoi. C'est avoir de l'espoir. Et puis, voilà, hein, faut rester optimiste, quoi.
Oui.
C'est à peu près mon avis aussi, ça.
Comment?
C'est mon avis aussi. Il faut
rester optimiste. J'entends mal.
Il faut rester optimiste, oui.
Oui, il faut rester optimiste.
Oui, il n'y a pas lieu de désespérer. On a des gens conscients, on n'est pas les seuls. Si nous existons, il y en a d'autres.
C'est évident.
Lele, je te propose de conclure vraiment après moi. Moi, j'apporte ma conclusion, puis je te laisse la conclusion. Allez, tant que j'ai l'inspiration, là, tout de suite, j'y vais. Je vais être bref. Ma conclusion, si je peux me permettre, voilà, c'est la lecture des documents humides qui me motive intellectuellement assez puissamment, je dois dire, depuis que le bouquin de Paul Huron est paru, tout simplement, depuis le mois d'août dernier. J'avais connaissance des lettres comme... tout lecteur de petit depuis début 90, et puis une précédente émission avec lui en 95, etc. Mais c'est surtout de lire l'intégrale des lettres disponibles qui évoque, alors disons, même si c'est de la science-fiction, ça évoque une société où la notion de profit a été...
gommée.
Ouais, j'allais dire, chercher le mot éradiqué, gommé, etc. La collectivité fournit à chacun selon ses besoins. Il n'y a pas de sentiment de propriété individuelle. Il travaille 3 heures par jour. Il médite 1 heure le matin, 1 heure le soir. Il semble vivre en harmonie, même si c'est collectivisé. Un monde, vraiment, me semble-t-il, en avance sur le nôtre. Alors, s'il y a autant de malaise sur cette terre, c'est pas seulement à cause des institutions, à cause des... une société ou des pouvoirs qui nous gouvernent, c'est aussi parce qu'il y a en l'homme un besoin de frime, de frimer son voisin en ayant plus que lui, en accumulant des biens, et ce qui conduit à des comportements pervers, arrogants et stupides. Voilà. Christophe Leleu.
Il y a aussi en l'homme des choses qui ne sont pas à jeter, à savoir c'est que les humides nous envient. En tout cas, c'est le sens artistique, la création qu'on peut avoir picturale, musicale, sculpturale. Et je ne suis pas certain, quant à moi, que la société humide soit une société idéale, mais en tout cas, ils ont nettement moins d'inconvénients que nous en avons. Je ne parle pas des avantages, parce que je ne les connais pas, je n'ai pas encore eu le temps d'y penser vraiment. Ça me semble, quelque part, une sorte de petit totalitarisme soft, mais qui n'est pas méchant, pas ogre, quoi, qui est pas, c'est évidemment pas du Staline, c'est pas du... Mais quelque part, il y a un nivellement, je ne sais pas quelle est la part de l'individu, et je suis assez attaché à la part de l'individu créative. Ce qui fait que je suis un petit peu sceptique sur ce qu'a dit Didier. Néanmoins, je crois à l'urgence de changer de civilisation, à l'urgence de remettre en question le système dans lequel nous vivons actuellement.
ça c'est pas pour parler pour ne rien dire, c'est une question de vie ou de mort, à long terme ou à court terme, va-t-on savoir.
Une surconclusion, Christophe Guelucci.
Oui, ben pour ajouter que c'est vrai qu'actuellement on est en train de d'évoluer vers une société, je la trouve bizarre, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne trouve plus de grands mouvements d'humanisme, on trouve plus. Enfin, moi je vois pas aujourd'hui qui peut être un révolutionnaire, qui peut changer les choses. C'est le vide, on se morfond dans notre système. Et il y a des inégalités qui se creusent de plus en plus. Enfin, moi aussi j'ai besoin d'un changement, quoi. Vous savez qu'on n'a plus des grandes figures comme Martin Luther King, des grands hommes de l'histoire. Aujourd'hui, on n'en trouve plus, quoi. Je vois pas qui aujourd'hui. Bon, José Bové, mais José Bové, ils sont en train de le tuer, quoi. Est-ce qu'il y a des grandes figures? J'en vois pas sur Terre, quoi, actuellement. Quoi.
Ils vont venir. Chaque époque en secrète.
Mmh. Oui, enfin bon, il y a eu Gandhi, Lanza del Vasto,
voilà, mais c'est fini, là maintenant, il n'y a plus rien.
Aujourd'hui.
Ben, on est entré dans une ère du tout technologique, précisément, qui étouffe un petit peu tout ça. On n'écoute plus tellement les individus. Mais je pense que chaque époque secrète aussi, c'est leader et c'est maître à penser.
Enfin, maître à penser, oui.
Ça dépend dans quel sens on l'entend.
Oui, oui. Le terme est dangereux. Bien, ben on a donné une voix à ces deux sites internet que sont tous les deux chez free.fr. Ataraxi d'une part, donc Christophe Guelucci. Ataraxi, ataraxie.fr, pardon. C'est leur heure avancée. Et Mirage Express, tout ça en un seul mot, .free.fr, ça c'est pour Christophe Leleu. Vos emails respectifs y figurent naturellement, donc pour la suite. On a donné un visage à Christophe Leleu qui est sur la webcam depuis 23h. Et puis maintenant, on va se tourner vers Alex pour nous donner un aperçu du menu qu'il a composé pour vous, ce qui nous attend jusqu'au petit matin sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2, en vous disant à une prochaine fois, la semaine prochaine.
Radio Ici et Maintenant, 95.2, émission proposée et dirigée par Didier Deplège. Ce soir, vous pouvez intervenir et poser vos questions à Christophe Judici du site Ataraxi au 01 45 75 44 44. Vous êtes invité à participer. Christophe, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, tout à fait.
Christophe, les auditeurs nous appellent pour nous dire qu'ils aiment beaucoup l'émission, mais que vous ne développez pas assez.
Oui.
Il faudrait développer un petit peu plus.
Alors, développer, disons que en fait, ça développe sur mon site, donc, je ne sais pas faire de la pub, je ne gagne pas d'argent dessus, mais développer, oui, je vais essayer de développer, mais vous me le rappellerez.
Alors, développons maintenant. Commençons par développer. Qu'est-ce qui t'a intéressé avant tout ? C'est l'astronomie, en particulier ?
Disons que j'ai commencé l'aviation, on va dire, l'aviation. Puis l'astronomie aussi, après, par la suite, mais tout ce qui est avion, astronomie, tout ça, ça m'a passionné tout jeune, quoi. Donc, et après, les ovnis, c'est arrivé un petit peu plus tard. Mais enfin, plus tard, on va dire qu'en fait, on en parlait très bien, je crois, dans les années 70, 80. À un moment, il y a eu l'émission Temps X des frères Igor et Grishka, tout ça, c'est des trucs qui nous ont plus ou moins... ça a été une époque où on parlait ouvertement des ovnis, je pense. À une époque... En 1974, il y avait eu une vague, si je dis pas de bêtises. J'étais tout jeune, mais 1980, je commençais à lire des revues, des magazines pour enfants, où ils parlaient d'ovnis à l'intérieur, quoi. Mm-hmm. De mémoire, je peux vous dire, par exemple, il me semble que c'est Pif Gadget qui parlait d'ovnis, d'ailleurs qui parlait de Jean-Pierre Petit, parce que j'avais mis un truc sur mon site, justement, des scans de cette revue qui n'existe plus. Petit à petit, ça a pris, quoi. Mais personnellement, moi, j'ai pas rencontré d'extraterrestres ou j'ai pas vu d'ovnis, quoi. Donc, c'est souvent les gens qui s'intéressent ont vu quelque chose ou ont eu une expérience. C'est pas mon cas, quoi.
Oui, mais c'est pas indispensable d'avoir été contacté pour s'intéresser au phénomène.
En fait, c'est la curiosité qui m'a... Non, le contact, c'est très bien, mais la curiosité, c'est très bien aussi.
Alors, développons cette histoire de fausses comètes.
Alors, on va développer. Donc,
on nous demande de développer, alors.
L'histoire de la fausse comète, c'est qu'actuellement, il n'y a plus rien de nouveau là-dessus, quoi. Hein, si vous voulez, ce qu'on a développé, c'est que... Ça a fait ouvrir les yeux sur les armes antimatières ou les armes de destruction massive. La comète, si vous voulez, les astronomes, pour eux, officiellement, c'est toujours une comète, ça reste une comète. Mais il me semble, je ne sais plus où j'ai lu ça, que Eugène Shoemaker, le co-découvreur de la comète, qui est mort actuellement. Il est décédé d'un accident de la route en Australie, cherchant des météorites.
Il est mort actuellement.
Actuellement. À ce jour, il y a longtemps qu'il nous a quittés, quoi. Mm-hmm. Lui, il me semble, j'ai lu ça, il faudrait avoir, je sais pas si sa femme est encore en vie, mais il faudrait avoir
un
témoignage. C'est ça. Il me semble qu'il a dit qu'avant, un peu avant sa mort, que cette comète, il l'a trouvée vraiment étrange, quoi. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Il faudrait aller voir directement sa famille, quoi, et poser la question. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que techniquement, je vois pas d'inconvénient pour avoir fait ça. Donc, on va reprendre, on va développer. La lettre raconte que différents vols de navettes spatiales et même de fusées ont servi à transporter des grosses charges, parce que ça pesait quand même assez lourd. Je crois que c'était de l'ordre de la trentaine de tonnes pour un module complet. Donc ce sont des modules, on appelle ça des modules bombes. De toute façon, il me semble que Jean-Pierre Petit, il a fait un très bon travail avec des schémas et des dessins pour bien illustrer comment ça aurait pu se passer, quoi. Donc en gros, des modules bombes, on va dire, qui ont été mis en orbite. Et ensuite, ils ont eu un système de propulsion révolutionnaire, parce qu'ils utilisaient quand même l'antimatière. Donc l'antimatière, ils en ont produit sur Terre. Donc les Américains, on dit les Américains, mais peut-être que les autres pays sont sur la voie. Hein. On pense aussi à la Chine. Et je pense que les Russes aussi sont sur le coup, et peut-être même les Français. Et donc cette antimatière produite sur Terre a servi essentiellement donc à propulser des engins, parce que la bombe, il faut bien comprendre que, comme c'est décrit dans la lettre, on pourrait se dire ça va exploser sur Terre et ça va tout détruire, mais non. C'est un peu comme les charges binaires, si vous voulez, ça se met en amorce au bout, à destination. La structure de la bombe fait que, en fait, au pire, on aurait une explosion de l'équivalent d'une bombe atomique, mais s'il y avait un accident lors du décollage de la navette. Mais en fait, je peux pas vous donner de. Il faudra avoir des schémas sous les yeux, mais si vous voulez, c'est Sakharov qui a eu l'idée en premier, il me semble, sur les canons électromagnétiques. Et donc la bombe, en fait, ça serait une sorte de. Je schématise, hein, faut pas me prendre au mot, mais bon, j'essaie de schématiser pour les auditeurs. C'est comme une sorte de canon électromagnétique, si vous voulez. Alors en fait, imaginez un cylindre avec des spires autour. Des spires, on va dire des spires de cuivre, mais en fait c'est pas ça, mais c'est comme c'est un conducteur électrique autour, et si vous voulez une charge explosive.
Mais sinusoïde.
Comment?
Sinusoïde.
Pas sinusoïde, en forme de solénoïde, un solénoïde, c'est voilà, en forme de tire-bouchon, si les gens ne savent pas ce qu'est un solénoïde. Donc on va dire en forme de tire-bouchon, au centre il y a du vide. Au bout de ce tire-bouchon, on va imaginer qu'il y a une charge explosive. Donc au début, les gens qui ont travaillé là-dessus se sont amusés avec des explosifs chimiques classiques. Et puis je crois que Sakharov a eu l'idée en premier de mettre une petite bombe nucléaire à cet endroit-là. Et si vous voulez, en explosant tout ça, ça fait que ça dégage. En fait, on appelle ça des canons électromagnétiques ou des armes. On appelle ça aujourd'hui des armes EMP. Donc paraît-il, les Américains vont se servir en Irak. On a cette guerre annoncée depuis longtemps. En fait, c'est le même principe, quoi. C'est une bombe électromagnétique dont on remplace l'explosif chimique par un explosif nucléaire. Et là, bon, Sakharov avait annoncé qu'on atteignait des puissances inimaginables en termes de production de champs magnétiques et de champs électromagnétiques. En puissance électrique, c'était des millions d'ampères, il me semble. Et en puissance magnétique, c'était plus de 100 Tesla. Donc je ne sais pas si les gens peuvent imaginer, mais 100 Tesla, c'est très, très très puissant, quoi. Et puis en termes d'énergie, c'est des terawatts, quoi. Donc cette petite bombe qui pèse une trentaine de tonnes, on va dire, enfin ces modules bombes qui pèsent une trentaine de tonnes, peut-être un peu moins parce qu'il me semble que c'est segmenté. Mais enfin, la charge d'une navette était une trentaine de tonnes, un peu moins, quoi. Et une fois en orbite, pour que ça ressemble à une comète, il faut que cette bombe soit maquillée. Donc, en fait, ils mettent un nuage de particules, on va dire, qui sont ionisables, qui peuvent être luminescentes. Donc, il y a eu des expériences, ça, sur mon site, je cite le nom des expériences, c'est SolWind. C'est des satellites qui ont été expérimentés bien avant cette histoire, quoi. Des satellites qui faisaient des expériences où ils lâchaient des particules, donc du barium, du lithium, des métaux, enfin des particules dans l'espace. Alors, le but de l'expérience, il faudrait retrouver sur Internet ou dans la documentation scientifique, mais je ne connais pas le but. Mais avec cette façon de faire, on pourrait entourer le satellite de luminescence. Donc, de très loin, on pourrait faire penser à une comète, quoi. Donc, pour développer, on va dire que ces modules bombes ont été envoyés par des navettes spatiales ou par des fusées, ont été maquillés à leur arrivée autour de Jupiter par des nuages de barium, lithium ou peut-être d'autres métaux. Hein. Il y a de l'aluminium, je ne sais pas. Ils ont peut-être trouvé d'autres astuces. Il faut creuser l'idée, quoi. Enfin, si les scientifiques entendent, il faut qu'ils se posent des questions. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce qu'on peut s'amuser avec d'autres métaux? Est-ce qu'effectivement ça s'ionise dans l'espace? Est-ce qu'on peut garder ça autour d'un satellite? C'est-à-dire, pour pas que le nuage parte dans l'espace, dans le confin intersidéral, il faut que le nuage soit autour. Donc tout ça, il faut creuser l'imagination et il faut essayer de voir si c'est faisable. Et ensuite, donc ces modules bombes sont arrivés autour de Jupiter. Donc, je sais pas combien de temps ça a pris, je me rappelle plus. Et puis ces bombes sont tombées sur Jupiter et c'était pour tester la puissance de ces bombes, parce que c'était trop puissant sur Terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez des impacts sur Jupiter, mais c'était de l'ordre de 12 000 km ou 20 000 km de diamètre. Donc la Terre, elle fait seulement 12 000 km de diamètre, c'est impossible à tester sur Terre, quoi. Pourtant, ce sont des petits objets de, on va dire, de 30 tonnes, mais qui rentrent dans le volume d'une navette spatiale.
Ah oui, tu dis également sur ce site, Christophe Glitchy, que c'était un moyen de contourner l'interdiction de militariser l'espace.
C'est-à-dire un moyen de contourner. Bien sûr, de toute façon, je crois qu'il y a des traités sur l'interdiction d'essais d'armes nucléaires dans l'espace, mais bon, il y a des traités qui ont été signés, donc en faisant comme ça, ni vu ni connu, quoi. Et en plus, c'était joli à voir.
Et tu signales également que le satellite observateur Galileo était tourné fort opportunément dans cette région au moment de l'impact.
Il y a des trucs qui sont troublants, c'est que quand même, c'est bon, la lettre elle le dit et c'est vrai, c'est que les capteurs, enfin tout le monde a été averti de cette comète qui allait s'écraser, donc tout le monde sur Terre en a profité pour mettre ses pointeurs. C'est tout type de détecteurs, bon, aussi bien à l'infrarouge que dans d'autres domaines. Tout le monde a profité pour pointer Jupiter. Manque de peau, ça s'est tombé, si vous voulez, juste derrière, enfin, sur la face visible de Jupiter, mais un petit peu derrière. Enfin, pas sur la face visible, mais derrière, on appelle ça dans le limbe de Jupiter, quoi. C'est tombé derrière, ça fait que l'impact lui-même n'avait pas été vu de la Terre, sauf du satellite, enfin de la sonde interplanétaire Galileo.
Laquelle est tombée en panne à ce moment-là.
Officiellement, oui, elle est tombée en panne. Disons que les détecteurs de Galileo ont été saturés. Et sur Terre aussi, il y avait, la puissance de l'explosion était plus que ce que avaient pensé certains astronomes, quoi. Et bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Galileo? La rumeur, moi je vais vous dire ce que pense officiellement. La rumeur, c'est que Galileo a été envoyé exprès pour ça, pour faire des mesures les plus justes possibles. Maintenant, Galileo, il a un double. Je vous parle de la rumeur, hein. Je vous parle pas de ce qui est officiellement. Et Galileo a un double contrôle, c'est-à-dire qu'on peut faire des pannes quand on veut, et on peut intercepter les données, et puis on peut faire des mesures quand on veut. Peut-être qu'il aurait suffi de mettre un satellite non connu, et puis c'est terminé, quoi. Mais bon, Galileo a eu souvent des pannes. Pas seulement le jour de l'impact. Je dis une panne au jour de l'impact, mais il me semble que c'était une saturation. Par contre, Galileo a eu des pannes en passant sur d'autres satellites. Galileo a eu souvent des pannes, mais bon, Jupiter, c'est un champ magnétique très puissant. On dit aussi officiellement que le champ magnétique de Jupiter étant puissant, Galileo était peut-être mal protégé, et de temps en temps, bon, il pétait les plombs et puis ça tombait en panne, quoi. C'est pour ça qu'il faut relativiser, il ne faut pas dire la comète SL9 était une bombe. Il faut avoir plus de preuves pour ça. Mais il faut quand même fouiller un peu de partout toutes les questions. Il faut relever tous les éléments qui penchent pour l'une ou l'autre des thèses, quoi. Et après, on fera le tri et puis après, on essaiera d'en déduire quelque chose.
José te pose une question via le chatroom. Mais sans doute, tu peux l'avoir sous les yeux puisque tu es également dans le chatroom pendant qu'on parle.
Qui est devant, voilà, là je le vois.
Oui, José nous dit, à propos des nuages de barium, a-t-on mis en évidence ces éléments dans les spectres de la comète?
Alors, dans le spectre de la comète, il me semble qu'on a mis en évidence de l'aluminium. Si vous voulez, la comète, elle s'est fragmentée. Donc, pour répondre à José, elle s'est coupée en 24 morceaux. Donc, dans la lettre SL9 anonyme, elle serait arrivée en 24 modules bombes. Et en fait, c'est les 24 morceaux, si vous voulez. Les 24 modules bombes étaient groupés, et puis ils ont été dégroupés pour qu'en fait, ils puissent mesurer les explosions les unes après les autres. Et comme il fallait simuler une comète pour pas qu'on pense à autre chose, il fallait respecter la fragmentation d'une comète. Donc, ces nuages de comètes, en fait... Dans une comète, il y a eu de l'aluminium. Dans l'autre morceau de la comète, il n'y avait pas d'aluminium. Dans un autre morceau qui était considéré comme gros parce qu'il était très lumineux, il a fait une petite explosion. Dans un autre morceau, il a fait une grosse explosion. Si vous voulez, c'est une comète, soi-disant... est-ce que c'est homogène une comète? Je ne sais pas. Il y a des comètes peut-être plus ou moins homogènes. Mais les 24 morceaux d'une comète commune ont eu des comportements différents à l'impact. Qui n'est pas lié nécessairement à la luminosité ou donc à la taille. Et c'était un peu bizarre comme comète, quoi. Bon, mais les astronomes, officiellement, ils se sont pas... pourquoi pas? C'est la première fois, de toute façon, qu'on voit une comète s'écraser sur Jupiter et puis ailleurs. Donc, pourquoi pas, hein, je veux dire, peut-être que c'est pas aussi mystérieux que ça, quoi. Maintenant, le barium, je sais pas si on en a... Il y a le lithium, peut-être, je me rappelle plus. Il faut fouiller, je vais regarder sur mon site, là. Parce que moi, ça fait un moment que je l'ai plus. Je mets des trucs, mais bon, je passe à autre chose. Je vais regarder ça, je vais vous dire.
Et Tetris ajoute sur le chatroom les messages précurseurs à la rumeur. Elle est en voie de diffusion, mais il y a eu rétention de l'information afin de protéger la vie des informateurs.
Les précurseurs à la rumeur.
Ben, c'est là sous les yeux, là, c'est dans le chatroom.
Je suis en train de lire.
Ouais. Il y a eu rétention de l'information pour protéger les informateurs.
Oui, peut-être, mais. Bien sûr, mais enfin, sur cette comète, si les astronomes qui écoutent cette radio entendent, moi je leur dis, reprenez tout à zéro et puis faites-nous un dossier complet. Il faut qu'ils se reposent des questions sur cette comète. Maintenant, en connaissant SL9, peut-être, ça donnera peut-être des informations autres. Mais moi j'aimerais bien que sur SL9, on reprenne tout à zéro, quoi.
Alors, bon, pour résumer, l'idée serait que la comète dite Schumacher-Levy n'était pas une comète, mais une fausse comète, une expérimentation militaire américaine de haut niveau, avec le moyen d'expérimenter une bombe surpuissante expédiée sur Jupiter, parce que c'était pas expérimentable sur Terre.
Un croiseur de luxe, quoi.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Oui.
Alors, une autre affaire assez proche, Christophe Iudici, c'est celle du projet SETI, qui aurait été freiné dans son expansion. On rappelle que SETI, ça consiste à partir de Porto Rico, l'observatoire d'Arecibo. Beaucoup ont vu le film Contact, inspiré par Carl Sagan, recevoir des informations radio de l'espace pour essayer d'y trouver des phénomènes récurrents, des signaux pouvant dénoter une intelligence. Et là, sur ton site ataraxie.free.fr, tu laisses entendre que on a été contraint à renoncer au premier projet SETI parce qu'il révélait la présence d'un satellite militaire espion à un tiers de la distance Terre-Lune, autrement dit 100 000 km.
Oui, parce qu'à un moment sur le web avait couru enfin une information qui était parue, c'était comme quoi un signal avait été détecté et que peut-être alors certaines personnes en fait il faut dire le projet SETI, mais il y avait le projet Mega SETI. En fait à un moment je crois qu'au niveau gouvernemental science américaine il avait été décidé de faire je sais pas si vous vous rappelez. Le projet Mega SETI, c'était un projet à gros budget où on mettait des sur écoute vraiment presque tout le ciel avec des scans de toutes les fréquences. Enfin, un projet ambitieux et puis coûteux. Et puis après, il n'y a plus rien eu. On l'a abandonné. Et en fait, il y a eu la SETI League. Donc, c'est des radio amateurs du monde entier qui se sont unis pour chacun avec ses moyens et en mettant en commun toutes les données, quoi. Pour essayer de faire, de prendre la suite du Mega SETI. Et puis à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu le lien, c'est qu'à un moment, il y a eu le signal qu'on appelle EQ Pegasi, un signal qui a été capté. Donc, sur Internet, on avait suggéré que c'était peut-être un objet qui avait été capté très près et finalement pas dans le fin fond de l'espace. Et en fait, c'était au-delà des satellites actuellement qu'on a en orbite autour de la Terre, mais bien avant Mars, quoi, si vous voulez. C'était un signal bizarre qui était à un endroit qui n'était vraiment pas prévu, quoi. Et ce qu'il en est, c'est que moi, c'est vrai que j'ai mis ce truc-là. Est-ce que c'était peut-être un satellite secret? Parce que s'il y a des choses qui volent en secret dans l'espace, il doit y en avoir pas mal. Et peut-être que le Mega SETI a été justement freiné pour pas qu'on trouve des signaux qu'on n'aimerait pas trouver, quoi. Peut-être qu'il y a des secrets militaires, des satellites qui tournent, il y a plein d'autres choses que nous on n'est pas censé connaître et que officiellement on veut pas découvrir, quoi. Donc c'est vrai que le projet Mega SETI a été tué dans l'œuf. Et en fait, ceux qui ont trouvé le signal, c'était pas du projet Mega SETI, c'était des radioamateurs. Et des radioastronomes amateurs. Et bon, actuellement, on n'en a plus entendu parler. Bon, c'est oublié, quoi. Mais bon, moi, je me rappelle bien quand c'est arrivé. Donc, je l'ai signalé. Je me dis, tiens, pourquoi pas un satellite militaire secret ou un truc comme ça, quoi.
Oui, parce que 100 000 km de distance, c'est bien
c'est
trop...
100 000 milles, hein. C'était 100 000 milles, je crois qu'ils avaient, ils avaient dit.
Donc, 100 000 milles, effectivement, c'est ce que je vois sur le site.
Non, c'est au-delà de la Lune, il me semble.
C'est bien trop loin pour prendre des vues terrestres. Ça n'a pas d'intérêt.
Oui, non, mais peut-être c'était... peut-être c'était un engin pour une mission secrète dont le signal de communication a été intercepté inopinément par un radioamateur à ce moment-là. Donc, était-ce un module bombe, un autre qui allait ailleurs, je ne sais pas. Mais bon, on peut imaginer plein de choses à partir de là. Mais on peut se dire que finalement, qu'est-ce qui empêcherait un organisme militaire russe, américain, chinois d'envoyer un objet dans l'espace sans que les gens le sachent, quoi. Moi, je voyais, c'est vrai que, à part le méga SETI ou des radioamateurs qui tombent pile poil sur le signal, même s'il est crypté tout ça, mais ils vont le capter, quoi. Et après, on se pose des questions, mais qui a émis le signal de cet endroit-là qui est censé être vide? Donc, c'était la question.
Et ben là, actuellement.
En fait, c'est une question, si vous voulez, mais c'est pas une preuve, c'est pas une.
On développe sur le thème qu'il y a des tas de choses, des quantités de choses que le public n'est pas censé savoir, donc qu'un secret, la politique du secret, qui concerne tous les pays, finalement, ne cesse de s'appliquer. Christophe Leleu a une parenthèse à ouvrir sur le thème du secret.
Oui, c'est la fin du rapport Cometa, qui est l'article 733. Finalement, pourquoi le secret ? Nous ignorons actuellement l'ampleur des connaissances que les militaires américains ont tirées de l'ensemble des études qu'ils ont menées sur le sujet, soit à partir d'observations, soit, comme cela a été parfois écrit, à partir de matériel qui aurait pu être récupéré. Quoi qu'il en soit, il est clair que le Pentagone a eu, et a probablement toujours, le plus grand intérêt à cacher, du mieux possible, toutes ces recherches qui peuvent à terme amener les États-Unis à tenir une position de large suprématie vis-à-vis d'adversaires terrestres, tout en les dotant d'une capacité de riposte non négligeable contre l'éventuelle menace venant de l'espace. Dans ce cadre, il leur est impossible de divulguer les ressources de ces recherches et les buts poursuivis, car cela pourrait orienter immédiatement les concurrents éventuels vers les pistes les plus intéressantes. Le camouflage et la désinformation, tant active que passive, resteraient toujours dans cette hypothèse une nécessité absolue. Ainsi, il paraît très naturel que dans l'esprit des chefs militaires américains, le secret doit être gardé le plus longtemps possible. Seule une pression croissante de l'opinion publique, éventuellement soutenue par des résultats de chercheurs indépendants, des divulgations plus ou moins calculées ou encore un accroissement brutal des manifestations d'OVNI pourraient peut-être amener les dirigeants et les responsables américains à modifier leur attitude. Il ne semble pas que l'on soit déjà là. Ça, c'est la conclusion du rapport Cometa.
Oui, donc c'est évident que les secrets peuvent être gardés, quoi. Donc, on peut citer aussi un exemple, je ne sais pas si vous connaissez le petit dernier de chez Boeing, un petit avion furtif, dont, enfin, on peut le trouver dans la revue Aviation Design, hein, ce que j'ai sous les yeux. Cet avion, il a été conçu en 92, il a volé en 96, certains ingénieurs ont commencé chez Boeing à le connaître en 99, et puis on l'a dévoilé en octobre dernier, semi-officiellement. Donc ça veut dire que personne ne savait que... En fait, apparemment, c'est sur la base 51, donc une base aérienne retirée dans le désert américain. Personne ne savait que cet avion existait, donc jusqu'à ce jour, puisque personne n'en a parlé, quoi. Il n'y a aucune rumeur dessus. Donc s'ils veulent garder un secret, ils peuvent le faire sans problème.
Et Tetris nous dit sur le chatroom... www.forumrim.com/chat. Tetris nous dit: la rumeur est un moyen détourné afin de contourner une désinformation scientifique et une persécution de grande ampleur. La science militaire est surveillée de telle manière que les chercheurs n'ont plus aucune liberté. Dénoncer l'état des choses revient à se condamner à mort. Et il ajoute: la politique du secret est un piège considérable qui sert à la manipulation.
C'est vrai.
Il ajoute aussi: une rumeur est une information qui peut être vraie ou fausse, ou les deux, ou indécidable.
C'est pour ça que... Et oui, tout à fait. Non, on peut pas aller très loin, nous, en tant que simples citoyens. Il faut avoir des moyens autres, bien sûr. On peut relever des détails qui sont incongrus ou des trucs bizarres, mais... Et puis après, on a des doutes, on imagine, mais... c'est dur d'aller plus loin, quoi.
Il y a un truc que je peux raconter.
Oui, Christophe Leleu.
Que je suis allé aux États-Unis, en Arizona, et à Sierra Vista, il y a une base qui est complètement souterraine, mais qui est même dans une montagne. C'est-à-dire que c'est des tunnels qui sont, les tunnels dans lesquels on rentre, et la base est dans la montagne, en fait. Et on s'est perdu en faisant une balade complètement par hasard. Incidemment, on s'est perdu là-dedans. Et il y avait les baraquements, les casernements. Mais on voit à quel point toute l'énergie, en fait, ça dégageait une impression de puissance et de secret. Parce que les panneaux énormes qui signalaient « Attention, vous entrez dans une zone interdite », etc. Nous, on était perdus, on ne pouvait pas faire demi-tour, de toute façon. Et c'était assez ébouriffant, quoi. Voir une base comme ça qui est... Et cette base-là, c'est une des bases dans lesquelles le F-117 était... était expérimenté.
C'était dans le Nevada?
Non, en Arizona.
Arizona?
Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas, à ce moment-là? En balade, tu faisais du camping?
J'étais en promenade. J'étais complètement touriste. Complètement. Mais vraiment, on est tombé en plein dans le territoire d'une base secrète, la base de Sierra Vista. Et elle existe. Elle
qui maintenant ne l'est plus?
Non.
Puisque Leleu l'a vu. Radio ici maintenant, 01 45 75 44 44 pour partager vos secrets ou vos impressions concernant le secret, puisque l'exemple que nous a donné Christophe Guidici tout à l'heure du Boeing, ce modeste exemple d'engin qui volait depuis 7 ans lorsqu'on a appris qu'il était réalisé, eh bien, démontre amplement que ce n'est qu'un tout petit exemple, qu'évidemment les moyens militaires immenses sont donnés à des équipes qui développent des tas de choses sans nécessairement avoir envie de nous en parler, et ça peut durer très très longtemps. 01 45 75 44 44.
Down.
Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, dans une émission proposée et animée par Didier Deplège. Alexandre, là, au micro, ce n'est pas le même.
Nous avons Christophe Iudici qui est toujours avec nous. Toujours là, Christophe ?
Oui, toujours.
Ok, nous avons Patrick qui veut te poser une question. Alors, attention, je vais faire ce que je peux pour que ça ne l'enchaîne pas. Ça ne va pas être évident, mais je vais me battre pour. Patrick,
si
bonsoir.
Tu me répéteras.
Bonsoir tout le monde. J'avais pas tellement une question à poser, c'était surtout pour rebondir vis-à-vis des moteurs. Parce que c'est... Vous m'entendez bien ?
Oui,
ouais, très bien, ouais.
Ça va, là. Parce que c'est un peu mon domaine. Et j'ai un ami qui a travaillé il y a à peu près 6 ans dans une entreprise de la région PACA qui constituait des moteurs à air comprimé. Et qui devait les vendre pour le Mexique et pour faire les taxis de Mexico. Sauf que cette société, elle a fait faillite.
Ah bon, parce que oui, je connaissais la société, Thierry Nègre, qui s'appelait le directeur.
Oui.
Et elle a fait faillite
D'après ce que je sais, oui, elle a fait faillite. D'après le collègue qui a travaillé là-bas. Et le fait est que donc ça fait 6 ans, je me rappelle de reportages qu'il y avait eu donc à la télé vis-à-vis de ça. Donc et la plupart des gens ont totalement oublié ce principe de moteur et même que ça existait. Et même le fait est, ce que je voulais dire, c'est que même si on arrive à la production industrielle et qu'on arrive donc à sortir et à vendre des véhicules comme ça, c'est pas pour autant qu'on va changer de mode de fonctionnement et de mode d'énergie pour les véhicules. C'est pas parce que dans 10 ans il y aura des véhicules à hydrogène que forcément dans 10 ans on passera à l'hydrogène.
Ben pourtant, alors quel est le consommateur qui a choisi entre un moteur non polluant et un moteur propre, disons, et puis être client du lobby pétrolier, qui hésiterait une seconde?
Oui, mais pour moi c'est pas le client qui décide. Voilà.
Oui.
Vis-à-vis de...
Bien, bonsoir à tous sur ici-et-maintenant.com. Vous êtes les bienvenus, tu m'entends? Faut que tu montes le volume de ton casque, tu sais, sur le fil qui va au générateur. Non, ils doivent être tous baissés, à mon avis. Tu sais, c'est les boutons. Tu dois pas m'entendre là non plus. Voilà, donc pourquoi cette interruption? C'est pas sympa de ma part. Voilà, le fautif c'est Alexandre, j'en suis désolé. On doit faire un ou deux essais sons et j'aimerais faire ces essais sons en direct car il y a du monde qui va arriver. Il faut que tous les micros soient aptes à fonctionner correctement. Il y en a un, moi je trouve qu'il grésille un petit peu. Alors vous allez pouvoir en juger vous-même. Eve, ça va?
Écoute, ouais.
Tu vois, je t'ai que d'une oreille là, ça me va pas du tout ça.
Moi aussi, je t'ai que d'une oreille.
Ouais.
Ouais.
Ok, alors, là, vas-y, parle.
Tu m'entends?
Ouais.
Et là?
Ça grésille un peu.
Hein. Ouais, mais moi ça grésille pareil.
Ça grésille pareil, alors ouais. Tu vois, c'est peut-être la base du câble que t'as dans la main.
Ça.
Ouais. Regarde s'il est bien enclenché, bien mis, si le fil est bien mis. Et à ce moment-là, c'est peut-être que ça le problème et ce serait formidable.
Écoute, là, je pense qu'il est fixé.
Ah ouais. Bien joué. Alors tu vas essayer de le positionner un tout petit peu sans le toucher à la base. Voilà.
Comme ça?
Ouais, c'est bien. Je pense que la personne qui sera à ta place sera un petit peu plus grande.
Ne sois pas insolent, s'il te plaît.
Vas-y.
Tu m'entends?
Ouais. Oh, c'est parfait, ça. Ouais. Ok, maintenant, on n'y touche plus. Merci beaucoup, Eve.
Voilà.
Eh bien, vous allez... Oh la vache, ça, c'est un Arsène. Alors, c'est donc un casque qui est passé à proximité d'un micro. Et vous allez pouvoir entendre maintenant... Oh, il reste une petite dizaine de minutes. On va vous mettre de la musique, hein. Et j'ai rien prévu, évidemment. J'ai rien prévu. Alors, on commencera avec un morceau de rock. Voilà. Hop.
Rock and roll.
Merci, Eve, pour ton aide. Hop. Voilà. Vous allez pouvoir écouter dans un instant les Blackberries et vous ne pouvez trouver cet album que dans quelques endroits qui doivent être la Fnac ou Virgin. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. On les avait reçus sur cette antenne, les Blackberries. Leur actualité, je ne la connais pas, mais c'est du bon gros rock qui tâche un petit peu à la Black Rose. Et puis n'oubliez surtout pas que dans quelques instants, sur Ici et Maintenant, 95.2,